Voilà, bonsoir à tous. Excusez le retard au démarrage, mais comme vous le remarquez sans doute, il nous manque quelqu'un à la table. Donc on va quand même commencer. Et comme dit la formule, ça va le faire venir. Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 24e soirée d'éthique publique. La sixième de cette année universitaire des facultés jésuites de Paris. Bienvenue aux fidèles de ce rendez-vous du premier mardi de chaque mois. Et puis bienvenue aussi, évidemment, à ceux qui viennent pour la première fois. Pour ceux qui découvrent nos rencontres, je voudrais dire que ces soirées d'éthique publique se veulent être très modestement comme des fenêtres sur des réalités sociales, politiques, internationales qui nous concernent tous d'une manière ou d'une autre. L'objectif étant d'essayer de nous donner quelques éléments de compréhension et d'analyse, de repérer des critères ou des pistes qui nous permettront de continuer notre propre réflexion personnelle ou avec d'autres. Le point de départ, c'est la parole de deux personnes, habituellement, on espère ce soir que ça sera encore le cas, qui partagent simplement et en confiance comment ils perçoivent un peu les enjeux de telle réalité. Et la parole de nos invités n'est évidemment pas une parole définitive, mais bien une parole pour ouvrir à d'autres paroles, à d'autres réflexions. Je rappelle qu'il est toujours possible de s'inscrire à l'accueil au secrétariat si vous désirez être informé par mail du thème de la prochaine rencontre. Et de même, il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de la soirée, et de toutes les soirées précédentes d'ailleurs, sur le site internet du Centre Sèvres, www.centresèvres.com. J'en profite aussi pour rappeler que les activités et les propositions du département d'éthique publique du Centre Sèvres ne se résument pas à ces soirées. Une fois par mois, il y a de nombreux cours proposés, et je vous invite vraiment à consulter le programme du Centre Sèvres ou le site internet. Et je me permets de vous signaler qu'il y a deux cours de grande qualité qui vont commencer dans les jours à venir. Celui de Louis-Marie Clouet, qui est un jeune chercheur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, sur le thème « L'Union européenne face au défi d'exister », qui commence jeudi, 5 séances durant le mois de mars de 19h30 à 21h30. Et celui de Patrice Buffoteau du Centre de relations internationales de la Sorbonne, qui est portera sur le thème « Réflexion chrétienne sur des enjeux de sécurité internationale » et qui aura lieu chaque mardi à partir de la semaine prochaine et jusqu'au 5 avril de 19h15 à 21h15. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a encore de la place. Le mois passé, nous étions très nombreux à scruter les évolutions de la Chine. Faut-il avoir peur de la Chine? Et nous avions beaucoup profité de la présence et de la réflexion du père Benoît Vermandeur et de monsieur Jean-François Dimiglio, rencontre extrêmement riche et intéressante. Celle de ce soir ne le sera sûrement pas moins. Ce n'est pas de sujets internationaux dont nous allons parler, encore que nous le sentons bien, notre sujet concerne directement la manière avec laquelle les événements internationaux sont rapportés, mais il nous a semblé important de nous interroger sur la qualité de l'information dans nos sociétés. Le sujet n'est évidemment pas nouveau et les questions sur le traitement de l'information, le rôle des médias font l'objet de débats depuis longtemps. Mais les évolutions récentes des techniques d'information et de communication, leur utilisation obligent pourtant, nous semble-t-il, à regarder à nouveau ce qui est en jeu pour nos sociétés. Peut-on tout dire? La transparence médiatique est-elle une bonne chose? Et il y a déjà des prises de position qui sortent. Je reconnais bien là le public extrêmement réactif de nos soirées. L'affaire Wikileaks, nous l'avons encore dans toutes les mémoires. Est-ce qu'Internet a changé les enjeux de l'information? Finalement, que penser du fonctionnement médiatique actuel? Le 8 février dernier, le quotidien La Croix avait publié un baromètre d'opinion qui mesurait une nouvelle fois la défiance des Français à l'égard de leurs médias. ces Français toujours soucieux de s'informer, mais doutant en même temps souvent de l'indépendance des journalistes et des médias, leur reprochant leur goût pour le spectaculaire et ayant le sentiment, à de belles exceptions près, de voir, d'entendre les mêmes choses d'un journal ou d'une chaîne de télé et de radio à l'autre. Alors, sommes-nous bien informés? Comment s'informer? Pour nous aider à y voir clair sur ces questions et débattre avec nous, je suis heureux d'accueillir d'abord l'un des deux intervenants, en espérant que le deuxième va nous rejoindre dans un instant. Philippe Merlan, merci Philippe Merlan d'être avec nous ce soir. Vous êtes journaliste depuis 1975 et je crois que vous avez exercé votre métier dans des médias et des titres très variés, France Inter, L'Équipe, Libération, la revue Autrement, l'entreprise, l'expansion, la revue Transversale, Sciences et Culture, dont vous avez été le rédacteur en chef. Et aujourd'hui, vous êtes à l'hebdomadaire La Vie, vous êtes chef du service culture, je crois, à l'hebdomadaire La Vie. Vous êtes cofondateur du site internet Place Publique et vous travaillez depuis une quinzaine d'années sur les conditions d'émergence d'une information dite citoyenne. Vous nous direz peut-être tout à l'heure ce que vous mettez exactement sous ce qualificatif. Vous êtes aussi, je crois, à l'origine et coordinateur de l'initiative de formation Reporters Citoyens, qui vise à mettre le pied à l'étrier du métier de journaliste et à des jeunes de banlieue. Vous êtes enfin l'auteur ou le co-auteur, le coordinateur de plusieurs livres, mais je ne ferai que citer ce soir Média, la faillite d'un contre-pouvoir, qui est paru chez Gallimard en 2009 et que vous avez écrit avec Luc Châtel, non pas le ministre de l'Éducation nationale, mais le rédacteur en chef de Témoignages chrétiens, il ne faut pas se tromper. Vous avez publié dans le dernier numéro de la revue Projet, qui est publié par les Jésuites du CERAS, un article intitulé « Médias et pouvoir, des relations de connivence », numéro que vous pourrez d'ailleurs vous procurer à la sortie. Merci beaucoup, Philippe Merlan, d'être avec nous ce soir. Alors, nous attendons, nous espérons Dominique Volton, qui nous a promis sa présence. Voilà, alors je vais le présenter, puis peut-être qu'il arrivera pendant ce temps-là. Dominique Volton, et puis ça évitera de le faire quand il sera parmi nous. Vous êtes, Dominique Volton est directeur de recherche au CNRS. Son domaine de compétence, notamment, concerne l'analyse des rapports entre culture, communication, société et politique. Il dirige actuellement l'Institut des sciences de la communication du CNRS, qu'il a fondé en 2007. Il est également directeur de la revue Hermès, l'auteur de nombreux ouvrages dans le domaine de l'information, de la communication, notamment de la communication politique, de l'espace public. Beaucoup d'entre nous se souviennent sans doute de l'entretien très intéressant qu'il avait eu avec le cardinal Lustiger dans les années 80, entretien qu'il avait mené avec Jean-Louis Missika et qui avait fait l'objet d'une émission de télé, mais aussi d'un livre, Jean-Marie Lustiger, Le choix de Dieu, qui était paru en 1987. Voilà. Alors, parmi sa très importante bibliographie, je ne ferai que citer ce soir « Informer n'est pas communiquer », qui est publié aux éditions CNRS en 2009 et qui rejoint complètement nos réflexions de cette soirée. Voilà. Alors, on va commencer avec vous, Philippe Merlan, sans plus attendre, comme nous en avons l'habitude, un temps de 20 minutes, si Dominique Volton n'arrivait pas, vous avez le temps de déployer un peu plus, et nous aurons aussi plus de temps encore pour les débats avec la salle, et ça aussi, ça sera de toute façon une bonne chose. Voilà, merci donc, Philippe, de votre présence.
Merci beaucoup. Oui, ça marche. Oui, vous m'entendez. Votre présentation était tout à fait exacte. Je ne suis plus chef du service culture à La Vie, simplement je suis au service France Monde, où je m'occupais jusqu'à ces derniers temps plutôt de politique, puis maintenant plutôt de la sphère débat, idées, la sphère intellectuelle, on va dire. Alors, j'ai essayé, en venant à ce débat aussi, parce que quand on a publié un livre, on est tendance à se répéter un peu, donc j'ai essayé de me de m'adapter aux questions que vous posiez un peu plus, et notamment de partir sur la question qu'est-ce qu'informer et sommes-nous bien informés, auquel je n'ai pas directement répondu dans mon livre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'informer? Je me suis dit, tiens, je vais aller voir un petit peu dans le dictionnaire, hein, voilà, dans le dictionnaire et sur Internet. Et c'est très drôle parce que c'est très difficile à définir, informer, et que très souvent, on en revient à informer, c'est donner des informations, voilà, en quelque sorte. Alors, si sur Internet, il y a des choses beaucoup plus riches, parce que il y a des synonymes qui sont donnés, et parmi les synonymes, il y en a qui sont éclairants, parce que il y en a qui vont dans le sens alerter, avertir, éclairer, enseigner. Enseigner est donné comme synonyme d'informer. Instruire, raconter. Donc on voit que ça peut partir dans des directions assez sensiblement différentes et que ça s'élargit un petit peu quand on va regarder sur Internet. Mais donc, très souvent, on en revient à des choses assez tautologiques, hein, c'est-à-dire que du type informer, c'est donner des informations. Voilà. Mais alors quoi? C'est quoi une information? Voilà. Alors, on peut dire une information, c'est donner au récepteur quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne sait pas. Mais par exemple, si je vous dis, je parle dans un micro Beyer dynamique, ça a peu de chances de vous intéresser. Je pense que vous n'en aurez pas grand-chose à faire. Voilà. Donc autrement dit, c'est une information qui n'a aucune utilité pour vous. Donc en quelque sorte, c'est vrai que informer ne sait pas uniquement donner à la connaissance des gens quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui potentiellement peut leur être utile. Alors, donc on ne sait pas très bien ce que c'est que l'information, et en plus, c'est vrai que si on parle des médias, les médias ne fonctionnent pas seulement sur le registre de l'information. C'est-à-dire qu'en gros, l'information, ce serait, par exemple, je lis un magazine parce que j'y lis des choses que je ne connais pas, et donc ça m'apprend des choses. J'y trouve intérêt parce que je ne connais pas, je ne sais pas et j'apprends des choses. Mais en fait, on se rend compte, si on regarde tous honnêtement, que ce n'est pas la seule raison pour laquelle on s'intéresse à un média, par exemple un journal. Je suis plus presse écrite, donc je vais éviter de répéter à chaque fois un journal, une radio. Donc je vais dire un journal, voilà, ce sera plus simple, mais derrière ça, c'est pareil pour une radio ou une télé. Le registre de l'information n'est pas le seul, on fonctionne aussi beaucoup par identification, c'est-à-dire... Et souvent, la première accroche avec un journal est celle-là. On tombe sur un journal et on dit « Ah, génial, ils parlent de quelque chose que je connais et ils en parlent bien, je m'y reconnais, hein, en quelque sorte. Voilà. » Et donc, on voit bien qu'un média fonctionne, l'intérêt qu'on a vis-à-vis d'un média fonctionne sur les deux registres. Identification, je lis parce que je connais et que ça correspond bien à ma façon de vivre les choses. Information, je lis parce que je ne connais pas. Et on est toujours dans un mélange des deux. Hein. Et donc, on n'adhère pas uniquement à un journal parce qu'on ne sait pas et qu'on y apprend des choses. Voilà un petit peu en préalable. Donc, c'est pas facile, hein, cette notion d'information. C'est à quoi ça sert. C'est est-ce que finalement je lis les choses parce que je ne sais pas. Enfin, voilà, ça pose tout un tas de questions. Après, je vais en venir à cette question. Sommes-nous bien informés? Alors, dans un premier temps, j'ai envie de dire oui. Et bien sûr, pourquoi? Alors, sommes-nous en tout cas informés? Oui, nous sommes informés. Nous sommes évidemment informés par rapport à des pays où la liberté d'information n'est pas assurée. Nous sommes dans un pays qui a ses défauts par rapport à ça, mais en gros qui reconnaît à travers un certain nombre de lois, c'est-à-dire que même il y a une loi sur la presse qui date de 1881, en gros elle pose des limites, des exceptions à un principe général de liberté. Donc nous sommes dans un pays où le principe général, c'est la liberté. Il y a un certain nombre de limites qui sont posées, mais ce sont des limites, dont des exceptions. Alors, c'est important à redire, parce qu'effectivement, dans le contexte actuel, on voit un certain nombre de pays où la question de la liberté de l'information, de la liberté de la presse, est posée comme une revendication fondamentale, et tant mieux. Voilà, j'allais dire, c'est quelque chose... Après, comme je vais être très critique, je tiens à dire ça en premier, parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Alors, il n'empêche que nous sommes dans un pays où la liberté de l'information est reconnue. Je voudrais juste citer une chose. Il y a Reporters sans frontières fait chaque année un classement de la liberté de la presse. Et en gros, il faut savoir que la France est passée du 11e rang en 2002 au 44e rang en 2010, où nous sommes par exemple derrière la Hongrie ou des pays comme ça. Donc il y a un vrai problème quand même sur ce registre-là. Voilà. Alors, donc liberté d'information assurée. Deuxième chose, je dirais, et à laquelle Internet contribue, il y a une grande variété d'infos disponibles. selon les sensibilités qu'on a, c'est très difficile aujourd'hui avec l'Internet, hein, notamment avant c'était plus compliqué, mais avec l'Internet c'est très difficile de dire moi je pense telle chose mais je ne trouve pas sur le net, sur la toile, des choses qui correspondent à ma sensibilité. Il faut aller chercher très loin parce que quand même l'éventail de ce qui est disponible sur Internet est quand même extrêmement large. C'est beaucoup plus réduit sur la presse écrite et l'audiovisuel. Troisième chose, j'allais dire, qu'il faut redire, de plus en plus, on dit l'info est disponible, alors je déteste cette expression, mais je vais la prendre quand même, en temps réel, je déteste cette expression parce que je ne sais pas ce qu'est le temps irréel, mais enfin voilà, ce serait une autre chose. Mais elle est disponible quasi immédiatement. Alors, je voudrais juste rappeler une anecdote là-dessus, ça m'est revenu en tête. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui se rappellent du premier film de Woody Allen qui s'appelait Bananas. Voilà. Et Bananas, c'est assez extraordinaire parce que l'effet comique repose sur une simple chose, c'est le fait qu'il filme une révolution en direct. Et on est mort de rire devant ça. Enfin, ça semble un gag absolument invraisemblable. Voilà, et on est tous pliés de rire parce qu'effectivement, on se dit, non mais... pour qui nous prend, on ne filme pas une révolution en direct, quoi, voilà. Et c'est ça qui se passe devant les écrans. Et donc, on se dit, Bananas, ça doit être 68, 69, 70, je ne sais pas exactement, mais enfin, en gros, c'est dans ces années-là, c'est une cinquantaine d'années, quoi, voilà. Et une quarantaine d'années, pardon, une quarantaine d'années. Et donc, tout d'un coup, ce qui était le comble de l'humour, on se disait quand même, il y va un peu fort, je veux dire, on est en plein dedans, quoi, c'est clair, voilà. Et on n'a sans doute pas mesuré à quel point ça modifie le monde lui-même. Le fait que sans arrêt, on soit à voir des choses qui sont en train de se passer. Voilà, et effectivement, je pense qu'on ne réfléchit pas assez dans en quoi ça modifie ces événements eux-mêmes, le fait qu'ils soient visibles à peu près partout, en direct, en live. Voilà. Mais donc, il y a cet effet-là aussi qui fait qu'il y a une abondance d'informations, et une abondance d'informations en direct, j'aime pas ce temps réel, mais enfin, voilà. Voilà. Ensuite, il y a une quatrième raison pour laquelle je répondrai, bien sûr, on est très informé, on viendra après au bien, mais on est très informé. C'est, alors ça peut sembler plus paradoxal. Je pense que pendant beaucoup d'années, et moi je pense y compris que j'ai choisi ce métier en fonction de ça, et que c'est faux aujourd'hui, voilà, on se disait, tiens, le boulot du journaliste est de dévoiler des informations qui sont cachées, et le fait qu'on montre que des informations sont cachées, va faire, moi j'ai choisi le journaliste, donc vous l'avez dit, je suis journaliste depuis 35 ans, donc 75, donc j'ai fait mes études juste après 68, j'étais fortement dans cette mouvance-là, et j'ai choisi très clairement, en me disant je veux faire un métier qui soit utile au monde et à sa transformation que j'estimais positive, voilà. Et je me disais, ce qui est bien dans le journalisme, c'est qu'on dévoile des choses. Il y a des choses qui sont cachées, et nous, le seul fait qu'on les porte à la connaissance du public va aider à ce que les choses changent, parce que les gens ne peuvent pas accepter. Voilà. Et aujourd'hui, je me dis, quelles sont bien les informations prétendument cachées, dont on se dirait, si elles sont portées à la connaissance du public, les gens vont descendre dans la rue et protester, etc. Je vais prendre un exemple. Hein. Le scandale de l'amiante, qui a duré quand même pendant des décennies, est aujourd'hui connu de tout le monde. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont été victimes de ce scandale-là. Ça n'a pas fait descendre les gens dans la rue. Aujourd'hui, on a le médiateur. Ça vient plus vite à la connaissance du public, parce que sur l'amiante, il a fallu des dizaines d'années. C'est scandaleux, je pense, qu'il y a derrière le médiateur. On est actuellement sur des évaluations de 500 à 2000 victimes. Le fait qu'on apprenne ça, je veux dire, ne suscite ni gigantesque mouvement de protestation, ni bon, mais je peux multiplier les exemples, j'allais dire. Les expulsions de sans-papiers, je pense qu'il y en a qui se font dans des conditions absolument contraires à toute dignité humaine, etc. Le fait qu'on est informé de ça aujourd'hui, ça ne, voilà. Donc je ne pense plus. Je ne veux pas dire pour autant que tout est à la connaissance de tout le monde. Je veux juste dire, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y a des informations cachées suffisamment graves dont on peut tenir, sur lesquelles on peut tenir le raisonnement « Ah, si les gens savaient ». Si les gens savaient, eh ben, parce que je pense qu'énormément de choses nous sont sues, voilà, et que ce n'est pas ça qui fait qu'on est à l'heure actuelle, à mon avis, dans un sentiment de relative impuissance et de résignation par rapport au monde. Il y a des gens qui se lèvent, qui se... Enfin, voilà, mais il y a quand même une acceptation du monde par rapport à l'horreur de... Enfin, voilà, j'ai parti pris là-dessus. Enfin, voilà, vous avez compris. Et je ne pense... Voilà. Donc, en tout cas, je me dis, mais c'est pas... Il n'y a pas des choses qui sont cachées, dont je me dis, mais si là je fais connaître ça, eh bien ce coup-ci, les gens vont dire, non mais là ça suffit, il y a quelque chose qu'on doit arrêter avec ça. C'est à peu près clair, enfin voilà. Donc c'est pour ça que je dis, on est très informé. Oui, allez-y, je vous en prie.
Moi j'ai pas tout à fait compris ce point-là. Vous pouvez le reprendre un petit peu, le dernier point.
Je vais essayer de le redire avec d'autres mots, alors.
Excusez-moi.
Mais
je pense que je dois peut-être pas être le seul.
Oui, est-ce que c'est partagé d'ailleurs sans... C'est pas très clair, d'accord.
Ah, okay. Merci.
D'accord, oui, non. Mais merci, hein, parce que c'est pas toujours... Je ne vois pas aujourd'hui... Enfin, voilà. Donc, moi, je pense... J'ai choisi ce métier, encore une fois, en me disant, tiens, mais notre façon de contribuer à ce que le monde aille mieux, c'est de dévoiler des choses qui vont mal, en se disant, si on dévoile que des choses vont mal, eh ben, des gens vont s'en emparer. Ils vont, à partir de cette information qu'on va leur donner, essayer de se mettre dans une logique de transformation de ces choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, je considère qu'on a beau mettre sur la place publique énormément de choses qui ne vont pas, ça ne suffit pas, d'une part, à mettre les gens dans une logique d'action, de transformation, etc. Et je pense en plus que, alors c'est deux choses légèrement différentes, je ne pense pas qu'il y ait dans les cartons, dans les sous-sols, dans les, voilés à la face du monde, des choses dont on se dise, ah mais là, si les gens apprenaient ça, eh ben pour le coup, ils rentreraient dans une envie d'aller vers un monde meilleur, plus juste, plus solidaire, etc. Je pense que beaucoup de choses sont connues du public, des citoyens. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer. En disant ça, je ne veux surtout pas dire « bon, arrêtons d'enquêter, par exemple, c'est très bien d'enquêter, etc. » Je veux dire que je ne pense pas que le dévoilement de choses cachées soit aujourd'hui la condition nécessaire et suffisante pour que des gens se mettent dans l'action et essayent de transformer le monde dans un sens de plus d'humanité, de solidarité. Voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair en disant ça, comme ça? Voilà. Alors que je l'ai pensé. J'ai sans doute choisi ce métier en partie par ça, pour ça. Voilà. C'est un peu plus clair ? Non, mais voilà. Donc, mais tout ça, c'était pour répondre à la question « Sommes-nous informés ?» Oui, je pense qu'on est suffisamment informés, par exemple, que ce n'est pas qu'une question de sous-information, je peux le dire comme ça, de sous-information qui fait que il y a, à mon sens, pas assez de gens qui essayent de contribuer à un monde meilleur, plus juste, plus solidaire, plus équitable aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas une question de sous-information. Voilà, je peux le dire comme ça. Oui ? Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il n'y a aucune chose extraordinaire dans Indignez-vous et que ça... Voilà. En même temps, moi, je suis assez en accord avec le fond et ça me fait plaisir que tout à coup, parce que c'est un monsieur qui a une légitimité pour dire ça à la fois par... son parcours, son histoire, son voilà, etc. Et qui du coup dit un certain nombre de choses qui commencent à être plus partagées. Mais je ne pense pas que Indignez-vous va faire que les gens s'indignent plus. Voilà. C'est clair, hein? Si je voulais répondre comme ça, voilà. C'est pas ça qui nous met en mouvement. Voilà. C'est pas le fait. Et Indignez-vous va fonctionner tout à fait sur l'identification d'ailleurs. On va se dire, tiens, c'est chouette, il pense comme moi, ou plutôt je suis content parce que je pense comme Stéphane Hessel qui est un grand monsieur. Voilà. Alors, on va peut-être, je continue peut-être et puis on verra après. Enfin voilà. Donc, alors, ça c'était. Alors après, sommes-nous bien informés, hein? Sommes-nous bien informés, c'est une autre question. Hein? Et là, je me suis dit, j'ai plutôt essayé moi d'aller reprendre des gens qui avaient pensé. Je suis un journaliste, hein, qui essaye de penser mon métier, mais je ne suis pas un penseur ou un intellectuel. Et j'avais retrouvé des citations à la fois d'Edgar Morin et de Miguel Benassayac, que je trouvais intéressantes, parce qu'ils distinguaient l'information et la connaissance. Et ça me parle beaucoup, parce que, donc tout à l'heure, on a évoqué le fait, donc je coordonne une formation des jeunes de banlieue aux journalistes, qui s'appelle Reporters Citoyens. Et un jour, par exemple, on était en pleine affaire Worth, et j'ai posé à mes stagiaires, à mes élèves, je leur ai dit, tiens, il y a quelque chose qui m'intéresse, l'affaire Worth, c'est la question des conflits d'intérêts. On a tous les jours le feuilleton de l'affaire Worth. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez compris des choses, connu des choses, fait, voilà, approprié vous-même des choses sur le conflit d'intérêts? Et donc, ils étaient, il y a eu trois groupes à qui j'ai posé la question, mais ils étaient 25. Il n'y en a pas un qui m'a dit oui. Ça m'a aidé à réfléchir, à penser comment on pouvait sortir de là, etc. Et donc, moi, ça me parle, cette question de l'information n'est pas la connaissance. Hein. C'est-à-dire, je considère que mes collègues, en plus, je prends cet exemple-là parce que je considère qu'en termes stricts d'information, mes collègues ont bien fait leur travail. Enfin, voilà, je n'ai pas de critique à formuler là-dessus. Et je me dis, quand même, ils font bien leur travail. Et au final, au bout de deux mois où on est là-dedans, les gens à qui je demande, mais est-ce que vous avez compris, appris, etc., sur les conflits d'intérêts, ils me disent, ben non, c'est quoi, où je... enfin voilà, alors qu'ils baignent là-dedans. Et donc, à partir de là, j'ai repris, Edgar Morin dit, notre mode de compréhension morcelée nous rend incapables de voir les problèmes fondamentaux et globaux. C'est pourquoi on observe aujourd'hui une crise de la connaissance. L'erreur, c'est de penser que l'information, c'est de la connaissance. C'est plutôt un fragment de réalité qui nous interroge. Pour qu'elle devienne de la connaissance, l'information doit être intégrée dans un contexte. Miguel Benassayag et Angélique Delray, dans un autre bouquin, ils disent « Tandis que la connaissance dépend de la possibilité d'expérimenter, de percevoir concrètement et donc en intériorité, les informations demeurent à des niveaux superficiels de conscience. » Ils ajoutent, si jadis l'information pouvait être considérée comme un élément nécessaire mais insuffisant pour agir, son flux toujours croissant est en train de devenir une barrière qui empêche d'agir. Nous avons maintenant tendance à rester paralysés en attendant les prochaines informations quand nous ne sommes pas tout simplement écrasés par la masse immense de nouvelles qui crée dans notre tête, à la place d'une image complexe, pensable, une obscurité de plus en plus épaisse, proprement déprimante. Ce sont des textes auxquels j'adhère assez fortement. Après, moi, je suis journaliste, alors je me dis, mince, est-ce que je me suis trompé? Et en fait, est-ce que je pensais faire de la connaissance, contribuer à diffuser de la connaissance? Et en fait, en ne diffusant que de l'information, je suis à côté de la plaque parce qu'on ne peut pas relier les deux. Donc j'allais dire, moi, j'aimerais faire une information qui génère de la connaissance. Vous voyez bien les distinctions qu'ils font, à la fois la question de contextualiser l'information et à la fois d'être en lien avec la possibilité d'agir, un truc important. Et voilà, je crois que c'est ces deux niveaux-là qui sont importants sur les deux. Alors, pour moi, du coup, on est mal informé, effectivement, et la malinformation, ce serait une information qui ne produit pas de connaissances. C'est un peu ça ce que je donnerais en me référant à ces gens-là. Et je considère que beaucoup d'informations aujourd'hui ne produisent pas de connaissances. Alors, pour quelles raisons? D'abord, quelque chose que vous devez... Je vais donner quelques raisons, hein, je ne les épuiserai pas toutes. C'est l'effet du zapping. Hein, c'est-à-dire que, très souvent, vous voyez un sujet qui occupe la une de l'actualité. Il est même à la une de tous les journaux en même temps. Et puis, 15 jours après, il va disparaître et on ne va plus le voir réapparaître du tout. C'est vrai que là, on n'est pas du tout dans un processus de connaissance. Hein, c'est-à-dire que ça s'arrête à un moment donné. Et on ne rebondit plus là-dessus. Je peux vous donner quelques exemples. Il y en a un qui m'avait beaucoup frappé. Enfin, on peut en donner. Il y en a à l'appel. Mais un des exemples qui m'avait frappé, c'était la révolte des moines des bonzes en Birmanie. Dont on a beaucoup parlé pendant 15 jours, 3 semaines. Ça faisait la une, etc. Et puis est arrivé, je ne me rappelle plus quel a été l'événement qui l'a chassé. Et qui l'a complètement chassé. C'est-à-dire que pendant quelques mois, on n'entend plus du tout parler de la Birmanie. Et tout d'un coup, il y a un tremblement de terre qui survient en Birmanie. Donc, on rebraille, on fait le travelling et on revient sur la Birmanie. Et en fait, à ce moment-là, on apprend que le tremblement de terre... Non, c'était un cyclone, c'est pas un tremblement de terre. Le cyclone arrive d'autant plus mal que c'était le week-end où étaient organisées les élections, fruit de l'accord politique qui avait été passé entre le gouvernement et les opposants. Mais donc on apprenait à cette occasion-là, en quelque sorte, que pendant les trois mois, en fait, il y avait eu des débuts de négociations, qu'il y avait eu un début d'accord politique et qu'il y avait donc des élections qui étaient organisées. Mais dans l'intervalle, c'était le noir, le tunnel absolu. Donc ça, bien entendu, c'est pas favorable à la connaissance. Alors, un autre élément qui n'est pas favorable à la connaissance, c'est l'absence de référence... L'absence de contextualisation, disait Edgar Morin, et notamment l'absence de référence historique ou géographique sur un événement donné. C'est-à-dire que c'est très rare. Je donne les tendances générales, hein. Il y a des journaux qui échappent à ça. Je sais que j'ai un confrère de La Croix qui est dans la salle. Je ne dis pas ça pour lui faire plaisir, mais très clairement, La Croix essaye absolument d'échapper à ça. C'est très marquant. Et du coup, ça tire un lectorat, d'ailleurs, qui n'est pas forcément que catho-chrétien, etc., mais qui a envie de trouver du sens à l'information. Voilà. Mais donc, l'absence de contextualisation historique ou géographique, quand vous avez un événement, vous êtes dans l'actualité immédiate. La question de savoir, est-ce que ça s'est posé à d'autres époques? Comment ça a été résolu? Ou est-ce que ça se pose dans d'autres pays? Comment est-ce que c'est traité? Elle est très rarement évoquée. Donc on est le nez dans le guidon. Et donc cette absence de contextualisation empêche de transformer l'information en connaissance. Ça a un effet assez important. Je mentionnais tout à l'heure l'histoire de l'amiante ou du médiateur. La question qui est un point aveugle pour les médias, c'est en gros, moi j'exprimais comme ça cette question. Quand arrive quelque chose comme ça, est-ce qu'en gros on est plutôt dans une logique d'accident, hein, c'est-à-dire que c'est parce que c'est un accident, c'est parce que c'est une exception, que c'est scandaleux, mais pour le reste tout va bien Madame la Marquise, ou est-ce qu'en gros on est face à un phénomène qui illustre le cours normal des choses, hein. Et quand vous lisez un journal, la radio ou la télé, c'est très rare que vous ayez des éléments, on ne peut pas asséner une réponse catégorique là-dessus, mais que vous ayez des éléments qui vous permettent de comprendre ça. Est-ce que je suis plutôt dans l'accident? Et en gros, est-ce que le reste du temps, sur cette question-là, ça se passe plutôt bien? Je reprends l'affaire Wars et les conflits d'intérêts. En gros, est-ce que ce qui se passe à travers là, c'est un accident et du coup... D'ailleurs, c'est assez drôle parce que, d'une certaine manière, ceux qui vont focaliser complètement sur Eric Worth et le mettre au priori, d'une certaine manière, vont traiter plutôt l'événement comme un accident. Mais ce faisant, la question de « mais d'où ça vient qu'on soit un pays où il y a autant de conflits d'intérêts ?» Quels sont, moi, j'ai fait un article dans La Vie, voilà, à ce moment-là, qui était d'essayer de comprendre comment dans les autres pays, cette question était prévenue, traitée, etc. Est-ce que c'était de la loi qui essayait de contraindre ça? Est-ce que c'était des codes de bonne conduite? Est-ce que c'était des discussions au Parlement? Voilà. Et du coup, c'était, moi, ça m'intéressait de le faire, parce que je me disais, est-ce qu'il y a une spécificité française là-dessus? Comment est-ce qu'on pourrait réformer les choses pour que, éventuellement, on soit un pays moins sujet au conflit d'intérêts? Voilà. Mais on voit bien que là, on déplace très nettement le curseur de l'affaire Worth à, finalement, il y a un problème de conflit d'intérêts, qu'est-ce que c'est? Voilà. Et donc, cette faiblesse de référence historique et géographique, elle joue beaucoup dans le fait d'avoir une information qui n'aide pas à la connaissance. Ensuite,
on a des nouvelles de notre...
Oui, on a des nouvelles. Il est en route.
D'accord.
Donc, il faut... Il vient de tout près, hein, parce qu'il ne vient pas de l'autre bout de la France.
D'accord.
Les nouvelles sont bonnes, mais il faut tenir.
D'accord.
Il faut tenir jusqu'à son arrivée.
Ah non, mais j'ai pas de problème à tenir, mais il faut abréger, donc un peu, voilà. Parce que je peux, voilà.
Enfin, il n'est pas encore là, donc il y a bien 10 minutes encore, je pense.
D'accord. Donc, j'avais essayé, en fait, il y a une quinzaine d'années, j'avais essayé de créer un magazine d'information générale qui se voulait un magazine contre le sentiment d'impuissance et la résignation. Parce que ce qui me frappait, c'était justement de dire, mais la plupart des médias confortent les lecteurs dans ce sentiment d'impuissance et de résignation. Et donc le magazine, il n'a pas vu le jour parce que faute de moyens financiers, mais on avait créé un site internet, donc Place Publique, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et on a essayé beaucoup de réfléchir à ce que pourrait être une information citoyenne. Alors, il y avait deux dimensions à ça. Il y en a une, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Non, ben, je vais le dire maintenant, parce que j'ai quand même... Voilà. C'était l'idée de dire, les journalistes n'ont pas le monopole de la production de l'information. C'est un métier, c'est des techniques, etc. Et tout le monde ne veut pas être journaliste, mais tous les citoyens sont, d'une certaine manière, producteurs, en même temps que récepteurs d'informations. Voilà. Quand on a créé site internet en 96, on s'est fait allumer par la plupart de nos confrères, parce qu'ils disaient, mais vous tuez le métier. Voilà. Je constate 15 ans après que... Voilà, qu'on avait plutôt raison, parce qu'aujourd'hui, j'allais dire sur Internet, c'est évident, tout site de médias sur Internet donne la place, donne la parole aux lecteurs. Il y a des blogs, il y a des... Enfin, voilà, donc j'allais dire, cette idée-là est passée aujourd'hui. Mais il y avait une deuxième dimension, on se disait, une information citoyenne, alors ça qui n'est pas passé encore, hein. C'est une information qui s'adresse à son lecteur en tant que citoyen et qui l'aide à exercer pleinement ses responsabilités de citoyen. Donc on s'était dit, qu'est-ce qui peut aider un lecteur à exercer ses responsabilités de citoyen? Et on avait pensé à trois dimensions. La première, c'était l'aider à entretenir, cultiver un esprit critique, à refuser les idées reçues, les idées toutes faites, les... Enfin, voilà, etc. La deuxième, qui était l'aider à passer à l'action. Voilà. Qu'est-ce qui, sur un sujet donné, non pas le pousser, enfin je veux dire, mais si le lecteur est indigné, révolté, etc., qu'est-ce qui, dans l'information que je vais lui donner, va l'aider à transformer ça en une capacité à agir. Voilà. Et la troisième, qui était de construire du débat public démocratique. Voilà. C'était les trois ingrédients. Et on réfléchissait beaucoup au choix de nos sujets, à la façon de les traiter, à la lumière de ces trois axes-là. Hein, c'est-à-dire capacité d'esprit critique, incitation à l'action et débat public, débattre, y compris, surtout si on n'est pas d'accord, voilà, essayer de créer du débat. Et c'était ça qu'on mettait derrière le terme d'information citoyenne. Je vais maintenant revenir, en attendant qu'arrive un peu Dominique Volton, parce que l'autre question c'était, est-ce qu'on a une information indépendante, est-ce qu'on a des médias indépendants? Alors, effectivement, on a chaque année le baromètre de crédibilité des médias, fait par TNS Sofres et publié par La Croix, et qui donne à peu près chaque année des résultats relativement comparables. Moi, je connaissais mieux les chiffres de l'année dernière. Qu'est-ce qu'ils disent, en gros, pour aller très vite? Il y a à peu près la moitié des Français qui disent « les choses ne se passent pas du tout ou pas tout à fait comme les médias nous le racontent ». Alors, ça dépend. La radio est la plus crédible. Ensuite, la presse écrite. La télé est la moins crédible. Voilà. Et Internet, encore moins. Mais en gros, la moyenne, c'est à peu près un Français sur deux qui disent « ben, moi, je ne crois pas que les choses se passent réellement comme on nous les raconte dans les médias ». Ce qui est quand même beaucoup. Après, il y en a à peu près les deux tiers, là aussi ça varie d'année en année, qui disent « pour moi, les médias ne sont pas indépendants d'un côté des partis politiques et du pouvoir et de l'autre des puissances d'argent ». Donc ils sont dépendants, ils sont sous leur dépendance. Moi, depuis des années, d'abord, chaque année, ce sondage dit à peu près la même chose. Et puis, moi, ça correspond tout à fait à l'appréciation que j'ai eue de mon métier. Je raconte un peu dans le livre, je dis, c'est une petite anecdote personnelle. Donc, j'ai commencé à être journaliste il y a 35 ans. Mon premier poste était à France Inter. Et à l'époque, donc 1975, on avait le ministre de l'Intérieur qui téléphonait régulièrement à la rédaction pour dire ce qu'il aimerait bien qu'il fasse l'ouverture du Trésor ou du... Voilà, c'était couramment admis. Voilà. Et aujourd'hui, même s'il y a des retours en arrière, à mon avis, avec l'actuel président de la République, mais on est très loin de ça. On est très, très loin. C'est une époque qui, heureusement, est révolue. Mais si je regarde donc cette époque-là, je me remets en arrière, en 1975, le ministre de l'Intérieur qui téléphone tous les jours pour savoir ce qu'il aimerait au journal. Et moi, en même temps, les gens que je rencontre, quand j'arrive quelque part, et notamment quand j'arrive chez des gens qui n'ont pas facilement la voix à la parole, des pauvres, des exclus, des immigrés, etc., je suis super bien accueilli. C'est-à-dire, on dit, ah, super, un journaliste, il va pouvoir parler de nous. Il va pas... Voilà, donc on attend quelque chose de très très fort de nous. Maintenant, je reviens aujourd'hui, donc des pressions directes beaucoup moins fortes, à mon avis. Mais quand on va quelque part, et notamment quand on va dans les milieux populaires, c'est quand même, plus vite il va partir, mieux ce sera. C'est très, très clair. Hein. Donc, deux épisodes là-dessus. Moi, j'étais à Villiers-le-Bel en 2005, quand il y a eu les émeutes de banlieue. On était vraiment quasi chassés à coups de pierre. Voilà. Deuxième événement, je vais à l'usine Continental à Clairoy, qui était une usine qui était menacée de fermeture avec 1000 licenciements à la clé. J'y vais faire un reportage le lendemain du jour où un certain nombre d'ouvriers ont saccagé les bureaux de la sous-préfecture. Voilà. C'est passé le soir aux 20h à TF1, visage non flouté, ce qui fait que quand il y a eu des poursuites qui ont été engagées, il suffisait de repasser le journal de 20h de TF1 et on pouvait aligner la liste des gens qui étaient convoqués au tribunal. Et donc quand j'y vais le lendemain, en fait la veille ils sont aussi un peu affrontés avec les gendarmes, mais en gros ils plaisantent encore avec les gendarmes sur les affrontements de la veille, alors qu'avec les journalistes, j'allais dire là aussi, c'est vraiment mais partez le plus vite possible, arrêtez de nous emmerder avec vos questions, excusez-moi je suis un peu voilà. Et donc moi ça me frappe depuis des années, je me dis mais alors que j'avais pensé ce métier comme un peu du côté des gens qui n'ont pas facilement la parole, un peu comme un contre-pouvoir, pour ça voilà, et bien de plus en plus on est assimilé par les gens à un des pouvoirs dominants. On est un des pouvoirs dominants comme le pouvoir économique et le pouvoir politique, mais le pouvoir médiatique est dans le même camp. D'ailleurs. Et donc, on a écrit ce livre avec Luc en partant de cette question-là, parce que ça fait des années, moi j'aime aller dans des débats avec les gens, et donc on nous renvoie ça, qu'on se fait pas mal agresser, enfin voilà, mais je l'accepte complètement, parce que je me dis, c'est tellement récurrent que le public a de bonnes raisons à ça, les citoyens ont de bonnes raisons à ça, et en même temps, les explications qui sont données sont fausses à mon avis, c'est-à-dire que les explications qui sont données, le plus souvent, c'est vous devez recevoir des coups de fil des ministres à longueur de temps, vous avez des actionnaires privés et donc maintenant ils interviennent régulièrement dans le contenu de ce que vous faites, donc de pression directe. Et les pressions directes, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais elles sont extrêmement rares. Moi en 35 ans, je ne sais pas, je pourrais compter sur les doigts de la main les situations où j'ai eu, à part le premier boulot à France Inter, voilà, mais les situations où quelqu'un est intervenu directement, soit un politique, soit un économiste, voilà, pour faire pression, ils sont très rares. Donc notre question de départ, elle était de dire, mais comment ça se fait, alors que les pressions directes sont si rares, comment ça se fait qu'on ait assimilé pareillement au pouvoir dominant? Les gens, par exemple, nous disent, ils sont très frappés par ça, hein. Vous devez l'être aussi, hein, je pense. Hein, voilà. Ils disent, mais comment ça se fait que vous traitez tous les mêmes événements au même moment et à peu près tous de la même manière et qu'il y en a que vous considérez comme parfaitement secondaires, accessoires? Pourquoi est-ce qu'il y a cet accord? Et donc souvent, la première explication, c'est, vous avez des ordres. Ben non, il n'y a pas d'ordre. Enfin voilà. En tout cas, pour le choix des événements, il n'y a pas d'ordre. Donc, qu'est-ce qui fait, effectivement, qu'il y a cet accord pour dire, ben, tel événement est digne d'être promu, justement, au stade d'événement? Pourquoi est-ce qu'on fait tous, à peu près, vous avez des exemples là-dessus, les trois principaux news et les trois principaux hebdomadaires, Nouvel Observateur, Le Point et L'Express, vous voyez comme ce qui fait la couverture tourne régulièrement, c'est-à-dire celle qui fera la couverture une semaine, on la retrouvera la semaine d'après, on la retrouvera, enfin voilà, vous pouvez qu'être frappé par ça. Donc d'où ça vient, si ça ne vient pas des pressions? Alors ce qu'on a essayé de développer dans le livre, c'est l'idée de dire, alors ça c'est une des idées qui n'est pas bien acceptée par les collègues, ça je dois dire, de dire, le journalisme n'est pas simplement une tentative de raconter le monde tel qu'il est, il est aussi une vision ou une représentation du monde particulière. Donc voilà. Donc on ne décrit pas le monde tel qu'il est, on le décrit à travers un certain nombre de prismes qui correspondent à la vision du monde journalistique et qui finalement est partagée à peu près par tous les médias, écrits, audiovisuels, j'allais dire même de droite ou de gauche. Enfin voilà, parce qu'il y a cet accord sur ce qui fait événement ou pas. C'est pas rien, hein, de considérer qu'il y a à peu près accord sur ce qui fait événement ou pas. Alors on a essayé de réfléchir à deux choses. C'est un, d'où ça vient, qui est cette vision du monde commune, et puis ensuite de décrire, mais ça c'est à mon avis vraiment un début, quelques ingrédients de cette vision du monde, parce que je pense qu'il y a un vrai travail, il y aurait un bouquin à écrire là-dessus, sur qu'est-ce qu'est la vision du monde journalistique, et bon, on a juste ébauché quelques pistes. Alors, d'où ça vient cette vision du monde commune? J'ai envie de vous donner comme ça cinq éléments, en tout cas, de ce qui contribue à cette vision du monde commune. La première, elle est liée au recrutement des journalistes. Alors là aussi, je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, à La Vie, on prend régulièrement des stagiaires l'été qui sont en cours d'études dans une école de journalisme. Et donc, une année, il y a 3 ans, je crois, on accueille en stagiaire l'été une jeune Linda, fille de famille algérienne, grandie dans les quartiers populaires de Bordeaux, et qui fait donc l'IUT de Bordeaux-Aquitaine, une des 12 écoles reconnues. Voilà. Et donc Linda nous raconte que quand elle est arrivée, elle était un peu la seule de son milieu social dans toute la promotion. Donc voilà, il lui a fallu le temps de s'ajuster, ils étaient sympas, enfin voilà. Mais donc du coup, ça l'a marqué ces premières semaines. Et donc du coup, ils ont un mémoire à faire, et elle se dit, mais au fond, je devrais proposer de faire un mémoire sur l'origine sociale des étudiants en école de journalisme. Et puis elle n'ose pas parce qu'elle se dit, ma pauvre direction, chaque année ils doivent avoir un étudiant qui leur propose ça, c'est la tarte à la crème, donc pas la peine. Puis elle va quand même un peu sur internet, elle regarde et puis elle trouve rien. Donc au bout d'un moment elle s'enhardit, elle propose ce sujet et on lui dit, mais non, ça n'a jamais été fait. Voilà, il n'y a jamais eu une enquête qui a été faite sur l'origine sociale des étudiants en école de journalisme. Après elle se penche, on a une commission de la carte professionnelle des journalistes, hein, qui fait des études, et elle se rend compte que la dernière qui a traité de l'origine sociale des journalistes en poste date de 1978, je crois. Voilà. Elle fait son enquête, elle a des réponses, elle arrive en gros à des résultats qu'il y a à peu près 80% des étudiants en école de journalisme, elle a un échantillon représentatif, qui sont dans des foyers gagnant plus de 3000 euros par mois, donc j'allais dire de classe moyenne ou moyenne supérieure. Voilà. Ça apprend deux choses, cette histoire. Hein. C'est-à-dire, ça apprend effectivement une homogénéité sociale extrêmement forte. Mais la deuxième chose, moi, qui m'a frappé beaucoup, c'est le fait qu'il n'y ait même pas d'études là-dessus. Et je me suis dit, quand même, c'est fou, parce que du coup, ça décrit bien qu'on vient, je viens aussi de ce milieu-là, donc voilà, qu'on vient d'une partie de la société qui ne représente qu'un segment de cette société, mais qu'on n'en est même pas conscient, qu'on pense qu'on vient de toute la société française, et donc qu'en aucun cas, on a dans la tête, parce que si on en était plus conscient, j'allais dire, par exemple, on peut se dire, tiens, je fais attention dans les gens que je fréquente, d'essayer justement d'élargir un petit peu, d'être plus sensible aux catégories sociales qui sont moins représentées chez nous, parce que justement, je sais qu'on a tendance à les évacuer. Comme il n'y a pas la conscience de ça, je veux dire, il n'y aura forcément pas d'effet correctif là-dessus. Donc, il y a le recrutement. Il y a la formation, qui est très très forte. La formation, bon, il n'y a que 20% des journalistes qui passent par les écoles reconnues, mais ça fournit quand même les gros bataillons de la presse dite nationale, qui est plutôt parisienne, quoi, voilà. Et puis la hiérarchie. La hiérarchie passe par les écoles, voilà. Et il y a des choses assez étonnantes dans la formation des écoles de journalistes. C'est en train de changer, hein. Ils prennent conscience de beaucoup de choses qui, voilà. Donc c'est pas pour leur casser du sucre sur le dos. Mais, alors j'ai réalisé ça pratiquement en écrivant le livre. Je me suis rendu compte que j'avais jamais eu, puisque moi j'ai fait une école de journalisme, le CFJ, j'avais jamais eu un cours de sémantique, de linguistique, d'analyse de l'image, d'analyse des symboles, d'analyse des sondages, voilà. C'est-à-dire que toute notre vie on travaille avec des mots, des images, des chiffres, mais on n'a aucune formation critique à ça. C'est-à-dire qu'on les prend pour argent comptant. Par exemple, vu la place qu'ont pris les sondages dans la presse aujourd'hui, je pense que ça serait absolument fondamental, il y en a peut-être qui le font aujourd'hui, hein, d'avoir une formation critique à l'utilisation des sondages. Hein. On n'a absolument pas ça. Voilà. Donc ça, c'est un élément de la formation des journalistes qui me stupéfie, j'allais dire. Voilà. Parce que je trouve que c'est très étonnant que tous les outils avec lesquels on travaille toute notre vie, on n'ait pas de formation critique à ça. Un troisième élément qui contribue à l'uniformisation de la vision journalistique, c'est le poids qu'a pris le marketing et les études de lectorat. De plus en plus, on essaye de savoir ce que le lecteur veut en lançant des études de lectorat. Il y en a qui savent très bien les faire et qui les font de façon fine. Il y en a qui les font entre deux études pour un yaourt ou une marque de lessive, qui les font, enfin voilà. Et donc, en gros, alors je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent un peu les questions de marketing et d'études, mais j'allais dire, il y a plein d'études qui ne font que conforter les tendances existantes. Et donc, qui ne laissent absolument pas place à des choses nouvelles, à des choses en décalage, à des choses, voilà. Et donc, tel que est pratiqué le marketing aujourd'hui dans les médias, je considère deux choses. Un, que ça conforte le conformisme, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire voilà ce qu'aiment les gens, et donc voilà. Et deuxièmement, que plus on a un lecteur, alors on a le lecteur type, voilà, qui est défini, mais le lecteur type, il n'existe pas. Hein, voilà. Mais il y a dans les salles de rédaction de plus en plus d'arguments qui sont faits avec oui, mais le lecteur aime pas ça, ou nos lecteurs aiment ça, ou le voilà. Ou alors, un des arguments qui est imparable aujourd'hui, c'est trop anxiogène pour le lecteur. Voilà. Hein, c'est-à-dire que telle ou telle chose va l'angoisser trop, et donc il ne faut pas traiter ça parce que c'est trop anxiogène. Donc les arguments sont de plus en plus délivrés au nom d'un lecteur type qui n'existe pas dans la réalité. Et la contrepartie de ça, c'est, alors là encore, j'ai la chance, moi, dans un journal qui a une association des lecteurs, l'association des amis de la vie, il y en a peut-être d'entre vous, je ne sais pas, qui est particulièrement importante, mais du coup, on a des contacts avec nos lecteurs réels, voilà, qui ne sont pas la même chose que le lecteur moyen ou le lecteur type. Ensuite, le lecteur type, forcément, comme c'est aussi orienté vers la publicité, ah oui, c'est autre chose à dire comme sur les médias. Je peux encore prendre 5 minutes?
Oui, oui. Voilà. Bon. Mais après, on fera peut-être quand même.
Oui, oui,
on lancera le débat parce qu'il y a déjà beaucoup d'éléments.
Voilà. Alors, c'est un marché particulier, hein, les médias, parce que en fait, on vend deux fois un journal, par exemple. On le vend à son lecteur, le prix de vente, soit en kiosque, soit en abonnement. Et là-dessus, c'est un marché qui est égalitaire. Peu importe, j'allais dire, que le lecteur soit ouvrier, immigré ou cadre dirigeant d'une grande entreprise, ils se valent l'un l'autre. Mais il est vendu une deuxième fois, il est vendu aux annonceurs. Hein. Voilà. Et là, ce qu'on vend, c'est le profil du lecteur. C'est son pouvoir d'achat, notamment. Et là, bien entendu, sur ce deuxième marché, il est fortement inégalitaire. Et c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'avoir un lecteur qui a un haut pouvoir d'achat qu'un lecteur... Enfin, voilà. Donc, sans rentrer dans les détails, cette mécanique-là induit quand même une mécanique de la chasse au cadre, notamment, parce que c'est beaucoup plus intéressant au niveau de cette deuxième vente. Il y a un autre élément qui contribue à l'uniformisation de la vision du monde, c'est ce que j'appelle, alors là j'ai repris l'expression en fonction de René Girard, c'est un peu travesti parce que c'est plus ce que j'appelle la rivalité mimétique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les trois hebdos. Ils sont en concurrence extrêmement frontale, mais ce faisant, ils s'imitent énormément les uns les autres. On passe de moins en moins de temps, nous journalistes, parce que ça coûte trop cher, là encore, je suis plutôt dans un journal qui échappe à la règle, La Croix échappe aussi à la règle, etc. On passe de moins en moins de temps en reportage ou en enquête sur le terrain. Une petite anecdote, je fais à mes élèves de banlieue un cours sur le reportage. Je commence toujours, je prends les journaux du matin, je leur dis vous feuilletez et dites-moi à la lecture de ce que vous avez, voilà, qu'est-ce qui est un reportage, là où le journaliste a été sur le terrain pour regarder les choses. Je l'ai fait sur les quotidiens du matin, et en fait c'est très frappant parce que les jours où je l'ai fait, même dans la plupart des journaux, il y avait entre 0 et 1 reportage. Voilà. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus une information qui est fruit de dépêches, de quelques coups de fil à des experts, de, etc., mais où on ne va plus sur le terrain. Or la réalité de la vie, la réalité du monde, elle est sur le terrain. L'originalité en plus de chaque journaliste, c'est... Quand on va sur le terrain, on ne voit pas la même chose que les autres. Enfin, voilà. Alors qu'on dispose à peu près tous des mêmes sources d'informations. Donc moins on ira sur le terrain et plus on travaillera au bureau, plus on se copiera les uns les autres parce qu'on passera son temps à ça, et plus l'information sera uniforme. Je décris maintenant très vite trois ingrédients de cette information, de cette vision du monde journalistique. Voilà. Il y en a plein d'autres. C'est une vision du monde qui est très individualiste et psychologisante. Je prendrai un exemple là-dessus. Regardez le nombre de couvertures sur les 50 qui font la France, ou les 50 qui font la Haute-Garonne, ou les voilà. C'est un signal, à mon avis, mais il y aurait plein d'autres exemples. C'est une vision du monde dans laquelle la société est façonnée par les individus, et pas l'inverse. On n'a jamais le regard inverse, sociologisant ou quelque chose comme ça. On a des individus qui sont au centre et qui tirent toutes les ficelles. Ça, c'est un premier élément de la vision du monde comme une journaliste. Un deuxième élément, c'est le nouveau est préférable à l'ancien. C'est-à-dire que le journaliste, parce que c'est vrai que... Alors, ça part d'un truc qui, techniquement, est inévitable. La dernière information, pour nous, est supérieure à la précédente. On est... Voilà. Mais ce faisant, progressivement, on dérape vers le côté... Regardez comme les journaux, les médias, aiment bien reprendre à leur compte les accusations d'archaïsme. Très souvent, c'est archaïque, c'est voilà, etc. Alors que ce qui est nouveau a a priori une connotation de supérieure dans les médias. Un troisième élément de cette vision du monde, qui à mon avis est un des éléments centraux, j'y consacrerai juste une minute, c'est la vision, la pensée utilitariste. Alors, pourquoi la pensée utilitariste? On s'intéresse de plus en plus, au comment qu'au pourquoi. Vous êtes sûrement frappé sur la une dans les kiosques, sur le nombre, vous avez les 10 recettes. Alors les 10 recettes pour n'importe quoi. Pour faire durer son couple, pour manager son équipe, pour faire craquer une bombe, pour, enfin voilà, mais tout, pour se ressourcer spirituellement, hein, voilà. Mais vous avez de plus en plus les 10 recettes pour, ou comment arriver à, voilà. Et ça c'est très étonnant parce que moi j'ai donc été dans la presse économique. J'ai été à un moment donné dans un journal qui était destiné aux dirigeants de PME. Bonjour. Voilà, je vais terminer. Bon. Et donc j'étais dans un journal qui était destiné aux dirigeants de PME. Je me rappelle que le premier article que j'avais eu à faire, c'était « Comment devenir sous-traitant du TGV ». Et j'étais incapable d'écrire un article en termes de comment, parce que je ne savais pas faire ça. On ne savait pas faire des articles pratiques. Je me dis, ça date d'il y a 25 ans. Et aujourd'hui, la presse est remplie d'articles de comment, de mode d'emploi, les 10 recettes, les machins. Il y a ça, il y a la mode aussi des palmarès, des classements, etc. Les classements des 10 meilleurs, enfin les universités, les hôpitaux, les machins, etc. Et ça, on voit bien que c'est quand même une vision du monde très particulière. On considère le lecteur, bonsoir, On considère le lecteur non pas comme un citoyen, mais comme un consommateur qui est face à une offre concurrentielle et dans laquelle il doit choisir ce qu'il y a de mieux pour lui et pour sa famille. Voilà. Mais ça, c'est pas rien. Quand à longueur d'année, vous voyez ce genre de couverture, à la fois, je dirais, les 10 recettes pour et puis le palmarès et tout, on est vraiment dans une vision utilitariste de la vie en société dans laquelle la solidarité, le lien social, des choses comme ça, ont à peu près aucune place. Ça n'existe plus. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça que Alors, il y a d'autres éléments de cette vision du monde, mais donc on a tenu à insister à dire, en fait, la connivence, parce que cette vision du monde, elle a deux particularités. D'abord, elle est commune à tout le métier, à peu près à toute la profession. On peut tenter d'y échapper, mais nous-mêmes, on n'y échappe pas. Voilà. Et ensuite, mais ça nécessiterait d'autres développements, elle est relativement en cohérence avec les pouvoirs dominants politiques ou économiques. Donc, en quelque sorte, ça réexplique ce que je disais au début. Il y a certes des pressions, mais elles ne sont pas si importantes que ça. Et en fait, c'est nos visions du monde relativement proches qui expliquent, c'est pour ça que j'avais parlé de connivence, une connivence extrêmement forte entre le monde journalistique et les milieux dominants économiques et politiques.
Je m'arrête là, peut-être.
J'ai débordé sur mon temps.
Merci beaucoup, Philippe Merlan, pour des tas de raisons. Mais non. Voilà.
À la culpabilité, bon. Vous en connaissez un rayon, hein.
Bon, attendez.
Ah, les curaillons, hein, ils en connaissent un rayon,
vous
hein.
Vous parlerez tout à l'heure, Dominique.
D'accord, vous êtes voilà. Lui, mais quand même, vous avez tellement fauté par omission.
Alors, mon écoute a été un petit peu troublée tout à l'heure, mais il y a plusieurs choses que je retiens quand même, qui me semblent importantes dans ce que vous avez dit, sur la difficulté, effectivement, de savoir ce que ça signifie, informer. Voilà, on ne sait pas très bien donner au récepteur une information. Bon, en tout cas, on voit bien qu'on est sur un mélange de plusieurs choses, notamment celui du registre de l'information avec celui de l'identification. Sommes-nous informés ? Pour oui, pour vous, c'est clair que oui, par rapport à beaucoup de pays, il y a une liberté d'information qui est assurée, une variété d'informations, avec l'abondance d'informations tenant compte de l'effet direct. Et puis vous avez fait le constat qu'il n'y avait pas d'informations cachées, qu'énormément de choses finalement étaient connues. Voilà.
Pas d'informations cachées qui sont susceptibles de mettre
les gens un peu. Voilà.
Il y a pas. Enfin voilà.
Alors donc on est informé, mais on est mal informé. Et notamment vous avez beaucoup insisté là-dessus sur le fait que l'information ne donne pas de connaissances. On sent que c'est important pour vous, avec le phénomène du zapping notamment, mais pas uniquement, que l'information ne nous permet pas de savoir finalement si nous sommes face à un accident ou à un événement qui fait vraiment partie un peu du cours normal des choses. Et que pour aider à ce décryptage-là, d'ailleurs, les journalistes n'ont pas forcément le monopole du traitement de l'information. Et on sent bien que votre objectif, c'est bien une information citoyenne. Et j'ai trouvé ça très important d'entendre ce que vous mettiez derrière. Aider le citoyen à avoir un esprit critique, l'aider à passer à l'action et construire un débat public démocratique. Et puis ensuite, quelques traits qui me semblent importants dans ce que vous avez dit, c'est cette dépréciation de l'image du journalisme par rapport peut-être aux années 70, où aujourd'hui, eh bien, vraiment, le journaliste est assimilé à un grand pouvoir dominant, le pouvoir médiatique. Et puis, vous êtes resté sur cette importante aussi uniformisation d'une vision du monde, du milieu journalistique, et qui finalement est un élément très important dans la manière dont l'information est donnée aujourd'hui. Et vous avez expliqué cela pour beaucoup de raisons. Voilà. Je crois qu'il y a déjà beaucoup d'éléments sur lesquels on pourra revenir dans le débat. Je vais passer sans problème et sans tarder la parole à Dominique Volton. Voilà. Sommes-nous bien informés? Comment s'informer? Peut-être 10 minutes, un quart d'heure, si c'est possible, pour qu'on ait un temps quand même de débat ensuite avec la salle. Merci beaucoup de nous avoir rejoints.
Oui, merci. Excusez mon retard, mais je dois encore aggraver mon cas. J'ai oublié mes notes.
Donc, tout va bien, quoi.
Merci, cher collègue, d'avoir fait. Bon, alors, je vais essayer de dire le maximum de choses en un minimum de temps. Et comme je dis en permanence, c'est pas parce que je parle plus vite que je parle plus longtemps, mais dans les médias, ça marche pas, cette idée-là. Alors, trois siècles de bataille pour la liberté d'information. Et la liberté d'information est connexe à l'époque avec la liberté de la communication. Informer, c'est communiquer pendant des siècles. Ce qui change en gros à partir de, entre les années 30 et les années 60, c'est qu'il y a une telle explosion de l'information, grâce au progrès technique et grâce aux luttes pour la démocratie, qu'en définitive, on découvre un phénomène que l'on n'avait pas pensé, c'est qu'entre l'information et la communication, il y a un personnage qui s'appelle vous et moi, le récepteur, et que le récepteur, en définitive, il fait que la plupart du temps, ce qu'on lui dit, il ne l'entend pas, ou il le refuse, ou il les négocie. En tout cas, c'est un empêcheur de tourner en rond. Et donc, la grande rupture, je pense, intellectuelle, culturelle, politique, c'est que, grâce au progrès technique, grâce aussi à la lutte, en gros, pour la démocratie, l'explosion du volume d'informations est telle que bien, plus on reçoit d'informations, vous et moi, plus on filtre, plus on hiérarchise, plus on élimine, plus on recombine, plus on oublie. Donc Dieu merci, aujourd'hui, si je puis dire, informer ne suffit plus à communiquer. Et je précise que la question théorique la plus compliquée, c'est évidemment la communication par l'information. L'information, c'est le message, quel qu'il soit, audiovisuel, internet, radio, tout ce qu'on veut. Et la communication, c'est ce qui est le plus compliqué parce que c'est une relation. Communiquer, c'est une relation entre deux personnes. Alors il se trouve que dans cette explosion des techniques et de la politique en 50 ans, il y a un mot qui est devenu de plus en plus noble, c'est le mot information. Il y a un mot qui est devenu de plus en plus vilipendé, la communication. Et une des questions théoriques qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on déteste la communication alors que nous passons notre vie à essayer de communiquer? Alors j'ai finalement une hypothèse. On passe notre vie à essayer de communiquer, 99% du temps ça ne marche pas. Nous butons tous sur l'incommunication, donc la communication qui est le fondement de la vie humaine, eh bien, ça ne nous laisse pas un bon souvenir. Par contre, les techniques, elles, sont de plus en plus performantes, et donc par conséquent, nous essayons de compenser notre forte incommunication humaine par une performance des techniques de communication. D'où, c'est une hypothèse, la dévalorisation du mot de communication, c'est du marketing, c'est de la manip. D'ailleurs, parenthèse, on considère toujours que l'autre con va être manipulé par le message, mais pas soi-même, hein. L'autre est un abruti qui se fait manipuler, mais nous, on est quand même assez malins. Bon. C'est comme quand les sociologues passent leur temps à donner le sens de la société. J'ai envie de dire, Dieu vous parlez-vous pour savoir où est le sens de la société, mais enfin, ils sont payés pour ça. Donc, nous aimons les techniques parce qu'elles sont efficaces. Nous n'aimons pas la communication humaine parce qu'elle est imperfectible et qu'en général, elle rate. Donc, une de mes hypothèses, dans le déplacement de valeur en faveur de l'information et en défaveur de la communication, il y a cette espèce d'écart entre la performance croissante des outils et le fait que, malgré le fait qu'on ait la radio, la télévision, la presse écrite, Internet, etc., donc le fait que nous sommes de plus en plus multibranchés, que nous gérions de plus en plus d'informations, hélas, nous ne sommes pas plus heureux du côté de la communication. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles le mot communication est dévalorisé vient de là. Et moi, je fais exactement le chemin inverse. Le concept important, c'est évidemment la communication, puisque la communication, c'est la relation. Donc c'est l'autre, donc c'est la difficulté, donc c'est l'échec, donc... C'est tout le problème qu'on a avec la mondialisation. Alors cette question théorique se renforce avec la mondialisation parce que nous avons un village global, d'un point de vue technique, mais l'illusion de ce pauvre McLuhan, c'était de croire que si on avait vraiment beaucoup de technique, les gens se comprendraient mieux. Il y aurait plus de compréhension, plus de tolérance, plus de communication. Et la tragédie, c'est que nous avons une mondialisation de l'information qui crée de moins en moins de communication. Les outils sont là. Et alors pourquoi ça ne marche pas? Un, parce que la résistance des récepteurs, je l'ai dit, et deux, parce que surgit un phénomène inattendu depuis 20 ans qui s'appelle la revendication du respect des diversités culturelles. Donc on a les mêmes outils, on envoie les mêmes informations dans le monde entier, je vais donner plein d'exemples après. Et pourquoi ça va clasher de plus en plus? C'est parce que la diversité culturelle, plus les inégalités nord-sud, etc., sont telles qu'en définitive, les récepteurs, ils ne s'y retrouvent pas. Et donc on voit monter cette espèce d'incroyable contradiction. Il y a une mondialisation d'informations. On n'a jamais autant produit et distribué d'informations qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais autant de techniques qui nous permettent d'être de plus en plus efficaces, en direct et compagnie. Et cependant, il y a de moins en moins de compréhension, de tolérance. Je prends un exemple tragique. L'ensemble des démocraties européennes se félicite naturellement de ce que la Tunisie, plus l'Égypte, et un jour la Libye, et puis pourquoi pas le Qatar, etc., bref, se libèrent et deviennent des démocraties. Et nous, Français, puisque je suis un défenseur farouche de la francophonie dont tout le monde se fout, on trouve tout à fait normal que la moitié de ces pauvres gars qui arrivent à Lampedusa parlent français impeccable. Donc la France, comme tous les autres, nous admirons le retour à la démocratie. On n'a évidemment aucune admiration pour des peuples qui ont fabriqué tout ça silencieusement pendant 40 ans. On ne doute même pas du fait qu'on n'a rien vu venir, mais comme on est content parce qu'ils rejoignent la démocratie, mais simultanément, on leur dit, vous restez bien là où vous êtes. Hein. Et les 200 000 Tunisiens qui sont actuellement en train d'arriver, plus ces 100 000 qui viennent de Tunisie, de Libye en Tunisie, on leur dit, halte là, vous n'allez quand même pas débarquer chez nous. Donc, vous voyez. Donc, pour l'instant, ils sont contents de se libérer de leur... Ils sont contents de se libérer de leur tyran. C'est pas moi. Hein, hein?
Si, je crois, non?
Si? Ah non, je jure. Putain, il est dur, hein? Et l'absolution. Vous, oui. Les salauds, ils monnaient depuis des siècles et des siècles.
Hein. Allez-y. Continue.
Je les connais, hein? Je les aime bien, mais quand même, hein? Hein, bon. Donc, nous sommes ravis, l'information passe et compagnie, mais qu'est-ce qui va se passer? Ces braves amis du Maghreb et un peu du Machrek vont s'apercevoir qu'on n'a aucune tolérance à leur égard, qu'on ne veut surtout pas qu'ils viennent. D'ailleurs, on a un ministre de l'Intérieur qui vient de partir il y a quelques jours. Enfin, il avait quand même dit cette chose solennelle et d'une intelligence radicale. Les Tunisiens ne seront acceptés en France qu'à condition qu'ils soient en règle. Vous pensez bien que les 100 000 qui viennent d'arriver à Lampedusa, ils sont parfaitement en règle. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, cette contradiction majeure entre un flux d'informations, une communication qui est bloquée pour des raisons politiques, que l'Europe se referme comme un bunker, et qu'on ne veut pas de maghrébins parce que ce sont des futurs islamistes, enfin, je ne vous fais pas la leçon, hein. Ça va être un boomerang négatif dans quelques temps pour nous, parce qu'on va dire, attendez, vous les Européens du Nord, vous êtes riches, vous êtes transformés en bunker, vous n'avez rien reçu, vous avez une obsession sur l'immigration, une obsession pour l'islam, etc., etc. Le pays le plus extraordinaire là-dedans, je le cite toujours, la première fois que je l'ai fait, d'ailleurs l'ambassadeur est parti en séance, j'espère qu'il n'y a pas d'ambassadeur de Suisse ici, c'est la Suisse. Qu'est-ce qui se passe en Suisse? C'est le pays où on veut tous rêver d'habiter. Il y a 75 poubelles, donc il n'y a pas un papier en désordre. Les prairies sont peignées tous les matins. Les vaches lavaient 14 fois par jour. Donc c'est le paradis de l'écologie. Là au moins, il y a 4 siècles de démocratie. 4 langues, le puvet de démocratie. Mais ils viennent de voter quand même pour la deuxième fois. En disant, il y a 4 minarets chez nous, il n'y en aura pas 5. Cherchez l'erreur. Vous pouvez être la première patrie de l'écologie et tout aussi raciste. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est une vieille démocratie, la plus vieille de l'Europe, c'est des champions de l'écologie, mais allez savoir pourquoi, ils pensent qu'ils sont menacés par les musulmans. Vous savez, les islamistes aujourd'hui, c'est exactement le rouge, là, entre 1918 et 1960. Vous savez, le marxiste, là, le communiste qui avait les couteaux entre les dents. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information ne suffit pas à faire la communication, nous avons toutes les informations sur la libération de ces peuples, naturellement ils vont demander la solidarité, c'est la moindre des choses. Quand même, surtout qu'on leur a pas mal piqué sur la façade sud de la Méditerranée pour s'enrichir nous-mêmes au nord. Et naturellement, on leur dit, écoutez, vous êtes bien gentils, mais vous n'êtes pas propre, pas lavé, pas de papier, donc circulez. Pour l'instant, ils disent rien, mais ils vont nous faire le feedback négatif. Donc ça veut dire que l'information non seulement ne crée plus la communication, mais elle crée même du contentieux. Et cette question, je la prends parce qu'elle est de l'actualité en ce moment. Mais dans le monde entier, on a le même problème. Nous avons 6 milliards et demi d'individus, en gros, 5 milliards et demi de radios, en gros, 4 milliards et demi de télévision, en gros, près de 3 milliards de téléphones portables, près de 2 milliards d'ordinateurs, on ne peut pas dire que la tolérance, le respect d'autrui, est augmenté proportionnellement. Donc on a des outils, on a des techniques, on a un flux d'informations qui augmente, et à la sortie, on n'a pas plus de communication, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de tolérance. Donc c'est ça la question politique qui m'intéresse, à quelles conditions cette explosion de l'information peut-elle aboutir, donc c'est une question politique au sens large et pas du tout technique, peut-elle aboutir à un peu plus de tolérance mutuelle? Je ne dis pas qu'on va se comprendre. Mais au moins de tolérance. C'est ça où l'Europe est une fois de plus prise à contre-pied. La plus grande expérience vivante de l'histoire de l'humanité, c'est ce que nous, Européens, nous essayons de faire depuis 1947. On est 500 millions actuellement. On est 27, on était partis à 6. On a 26 langues. On n'a rien à se dire. On se déteste. On est bourré de stéréotypes. Et ça marche. Donc ça, oui, ça marche pas bien, mais on s'en fout. Bon, pour nous, c'est très pénible quand on prend 10 ans de retard, mais aux yeux de l'histoire, qu'est-ce que c'est que 10 ans de retard? Bon. On rate une constite, on en reprend une autre, c'est pas grave. On en prend un, d'ailleurs, parenthèse, il y a aussi l'histoire grimaçante. La Turquie, jamais, elle est chez nous, jamais les Turcs, jamais, c'est encore... Puis qu'est-ce que ces petits pays qui viennent de se libérer ont comme modèle? La Turquie. Ironique l'histoire, hein. Parce que c'est vachement bien pour eux ce qui s'est passé en Turquie entre la laïcité et le parti actuellement au pouvoir. Et nous, on a dit, non, on ne veut pas des Turcs, c'est surtout pas des Européens. Enfin, comme il n'y a pas de frontières géographiques de l'Europe, mais qu'il y a des frontières historiques, il faut quand même leur dire que l'Empire ottoman, le dernier siège, ça nous intéresse ici, 1686, levé à Vienne. Évidemment, c'est un prince catholique polonais qui boute les... C'est la dernière fois qu'ils viennent si loin en Europe. Mais 1686, on comprend qu'on ne les aime pas, les Ottomans et les arabo-musulmans. Mais enfin, bon. Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'histoire, avec la mondialisation des techniques, avec l'accélération des événements politiques, elle fait tout ressortir. Et ou bien on fait un effort de communication interculturelle et de tolérance, ou bien ça, ça va déboucher sur de la haine. Et c'est ça qui m'intéresse. 3 siècles de libération autour de la liberté de la communication pour arriver au résultat exactement inverse, qu'on se tolérerait de moins en moins, parce que l'autre, celui que je déteste, déjà mon voisin de palier, cette espèce d'abruti qui a la ferme d'à côté, là. Oui, je fais une parenthèse. On m'a dit pendant 35 ans, quand je travaillais sur la télé, ah oui, mais c'était vachement bien quand même à la campagne avant, quand il n'y avait pas la télévision ou la radio, parce qu'enfin, les gens, ils se parlaient entre eux. Vous avez déjà écouté l'éveillé des chaumières? C'était monstrueux de haine. T'as vu ces salauds d'à côté, ils ont piqué la vache du tout, etc. On m'a dit, la radio et la télévision et la presse écrite avant ont élargi l'espace mental des gens, ils ont sorti de la haine locale, ils ont permis de s'élargir. Donc les médias, c'est une ouverture sur le monde. Et donc là, on est au maximum de ce mouvement d'ouverture sur le monde, et on s'aperçoit que ça ne crée plus ça. Donc l'autre, on peut le tuer quand il est le voisin d'à côté, ou le voisin de palier, mais encore, c'est le même, si je puis dire. Le problème, c'est que maintenant, c'est l'autre qu'on voit, c'est le différent. Et je ne sais pas comment on va résoudre cette question. Comment éviter que le maximum d'informations que nous recevons ne soit pas finalement un accélérateur d'incompréhension ou d'intolérance à l'égard des cultures, des religions, des peuples qui ne nous ressemblent pas? Et je reviens sur l'Europe. On est dans une contradiction majeure pour nous. On fait le plus gros effort de cohabitation culturelle en notre sein, 26-27, et un jour il y aura la Turquie, c'est évident. On va aller à 30 comme ça. Et en même temps, on est complètement fermé sur la façade sud de la Méditerranée, qui est en train de nous toquer à la porte, la plupart du temps en français. Vous savez, on vous rejoint. Ah oui, restez à votre place, mes cocos, hein. Voilà comment une révolution politique, démocratique, avec une révolution de l'information, voilà. Donc, je ne sais pas comment, alors. Je résume 2 autres idées encore. Un puits d'informations. Ça, c'est une bataille que je mène, mais perdue avec les journalistes. Puits d'informations, plus le métier de journaliste est fondamental. Et c'est évidemment, ils pensent exactement l'inverse. Les pauvres journalistes sont tombés dans le pot de confiture des nouvelles technologies. Avec le thème du citoyen journaliste, vous savez. Et c'est quoi l'idée? Oui, j'ai bien entendu.
Non, non, mais...
Oui, le casque. Je vais finir mon raisonnement, 20 secondes. Mais ça ne me dérange pas que Internet... Mais ce qui se passe avec Internet, ça a déjà eu lieu avec la télévision avant, ça a déjà eu lieu avec la radio. Le drame, c'est qu'on n'a aucune mémoire de l'histoire de la communication. Toutes les utopies positives qu'il y a sur Internet, je ne parle pas des saloperies d'Internet, je parle de ce qui est positif. Ces utopies, elles existent depuis le télégraphe 1820. Je dis le télégraphe parce que c'est des historiens chez moi qui m'ont montré que les discours qui ont été générés par l'arrivée du télégraphe sont les mêmes qu'on entend sur la radio, sur la télévision, aujourd'hui sur Internet. C'est-à-dire l'homme a besoin d'utopie politique, il investit les techniques de changer l'homme, évidemment, l'homme ne change pas. Donc ce qui se joue sur Internet, c'est une explosion de l'information, un espace d'expression, de rumeurs, de saloperies. Bon. Que ça permette de temps en temps d'être un contre-pouvoir aux médias qui sont un establishment, why not? Mais penser que vous et moi, citoyens ordinaires, nous allons nous substituer aux journalistes, niette. Et le même enjeu, je vais élargir, c'est pour l'éducation. Quand les vendeurs de bécanes, dans le monde entier, nous disent « L'éducation, ça vaut rien, les profs sont pas rentables, ce sont des gauchos conservateurs infernaux. Le rendement de l'éducation n'est pas bon. Ils sont en grève, gna gna gna, mais quand même, avec les petits cartables interactifs, avec l'interactivité personnalisée, on pourrait quand même avoir un meilleur progrès dans l'éducation. » C'est le même enjeu de supprimer les profs dans l'enseignement que de relativiser le rôle des journalistes dans un espace élargi d'information. Oui, on peut foutre des bécanes à l'école, mais à condition qu'il y ait plus de profs que de bécanes, et ce n'est pas ça qui est prévu pour les 20 ans qui viennent. Je crois qu'il était parti. C'est le même enjeu, c'est-à-dire qu'on peut avoir un espace élargi d'information, il faut garder les journalistes, c'est fondamental. On peut avoir un espace de technologie de l'information, on peut mettre des bécanes à l'école, on peut mettre des télévisions, des radios, à condition qu'il y ait toujours plus de profs. Donc je dis, je suis d'accord, une bécane, un prof, une bécane, un prof. Mais ce qui va se jouer dans l'éducation dans 30 ans, que j'ai dans 5 ans, puisque vous savez que la Tunisie, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Portugal sont les pays qui ont déjà fait le choix du cartable électronique. Ça va être, est-ce qu'on garde un prof pour une bécane ou est-ce qu'on garde 10 bécanes pour un prof? Pas besoin que je développe longtemps le raisonnement. Ça veut dire que le rapport à l'éducation, c'est un rapport d'amour, de transfert monstrueusement compliqué, complètement artisanal, qui fait que pendant 25 ans, un garçon ou une fille va se mettre à aimer cette discipline et la détester ailleurs, uniquement pour des raisons de transfert affectif. Alors on peut compléter ça par de l'objectivité cognitive, il n'y a aucun problème, mais ici on est compliqué, on est bon dans les profs, dans la discipline dont on a aimé le prof. Hein? Bon, c'est plutôt bien, mais c'est comme ça. C'est emmerdant parce que ça fait un rendement mauvais, mais on n'y peut rien. Et donc l'idée de croire que si on fout des bécanes, eh bien c'est le même problème pour Internet, espace d'information. Oui, Internet comme espace de critique et de proposition, à condition que les journalistes gardent l'espace. Voilà, et ça c'est fondamental. Et plus on aura un espace supprimé d'information, j'ai compris, je m'arrête, discret, hein, plus nous avons un espace d'information élargi, plus il faut garder des dernières choses pour l'actualité. Le nombre de cornets qu'on a pu entendre, de bêtises, d'erreurs, vous les avez tous entendus comme moi à la radio, à la télévision. La révolution tunisienne, égyptienne, c'est la révolution de Facebook, de Twitter et d'Internet. Vous l'avez entendu. La première cause de la révolution, c'est 30 ans de maturation silencieuse sur lequel on n'a rien compris. Et qu'au bout d'un moment, une jeunesse ait le courage pour des raisons X et Z de rester, de se mettre dans les chenilles des chars. Et pour la communication, la première chose qui a fonctionné et la plus importante, et je rentre du Maroc, j'aurais dit vous avez intérêt, et je pars demain au Liban, j'aurais dit vous avez intérêt à labelliser ça, c'est le premier système de communication qui a marché, c'est d'ailleurs eux qui l'ont inventé comme concept, ça s'appelle le téléphone arabe. C'est-à-dire des hommes qui se piapiatent. Donc sur la place Tahrir, avec Internet, ils arrivent en 2 heures, en se parlant par le téléphone arabe, ils arrivent en 4 heures. Pourquoi je dis ça? Bien sûr que ça a été important, les nouvelles technologies pour les gamins de 15 à 35, mais passé 40, d'abord il n'y a pas assez d'équipement, ensuite de ça, les gens ne savent pas s'en servir, puis sortez des villes, il n'y a pas. Donc ce sont les Occidentaux, les Européens, complètement obsédés par les nouvelles technologies, qui ont pensé, oui, il y a eu des nouvelles technologies là-bas, mais le plus important, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans, quand est-ce que le téléphone arabe s'est mis à marcher, et pour expliquer la communication de masse qui a fonctionné, il y a un média fondamental à rappeler, c'est le rôle d'Al Jazeera. Première chaîne d'information arabe en continu, création en 1996, 40 millions de récepteurs dans le monde arabe. Et donc Internet n'a pu avoir ce rôle que parce que simultanément vous aviez ce média avec sa radio complémentaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on analyse une situation, il ne faut pas qu'on projette nos obsessions ou nos idolâtries. Oui, ça joue un rôle, mais de loin pas le plus important. Mais si on dit ah, c'est Facebook qui a fait la révolution en Tunisie, nous, Européens, ça nous interdit de faire une réflexion critique. Sur mes bons dieux, il faudrait quand même qu'on comprenne comment ça a marché chez eux. Ah, dis-moi, ça va, ils nous retrouvent. Autrement dit, on en sort avec un complexe de supériorité supplémentaire, ils retrouvent la démocratie, notre modèle, et ensuite de ça, ils retrouvent nos technologies. Et dernière chose, on dit, putain, il faudrait quand même pas qu'il y ait les fondamentalistes qui viennent derrière. Autrement dit, on leur donne même pas la liberté d'avoir une capacité d'inventer l'histoire.
Merci, merci beaucoup. Ça valait la peine d'attendre aussi. Hein, c'est...
Non, mais j'avais prévu quelque chose qui était beaucoup plus académique. Hein.
Oui.
Et comme j'ai perdu mes notes.
Voilà, en tout cas, je crois que c'était important aussi d'élargir l'espace de l'attente, comme on dit, aussi aux questions d'actualité à partir de la notion d'information. Alors, je ne vais évidemment pas me hasarder devant le propos à essayer de résumer, mais je crois qu'on a bien entendu cette idée principale que l'info ne suffit pas à faire la communication, que les outils de l'info sont là, de plus en plus performants, mais que pour autant, eh bien, la communication ne passe pas, et que c'est bien là l'un des enjeux d'aujourd'hui, finalement, à quelles conditions cette explosion de l'information, vers quoi peut-elle aboutir? Est-ce que c'est à une intolérance plus grande ou à une occasion de se rapprocher? En tout cas, la question est ouverte et nous allons continuer le débat tous ensemble avec le micro qui va circuler. Donc n'hésitez pas à bien lever la main pour qu'on en prenne 3 ou 4 au début. Voilà, la première question tout de suite.
Oui, bonjour. Par rapport à votre intervention, Monsieur Volton, j'avais peut-être une ou deux petites remarques. Il n'est peut-être pas si évident que ça qu'aujourd'hui on connaît moins l'autre qu'on le connaissait il y a 50 ans, il y a un siècle ou il y a un siècle et demi, et les moyens de communication modernes nous permettent quand même, alors il y a toujours bien entendu des exemples de haine et de mauvaise compréhension, c'est pas totalement sûr qu'on connaisse moins les autres qu'il y a un siècle. Ça c'est une première remarque. Et concernant le téléphone arabe, il a beaucoup de bienfaits, mais il n'est pas obligatoirement aussi puissant que ce qu'on peut avoir sur Internet. Donc, bon. Oui. Bon.
Vous avez vu la censure, voilà, hein?
C'est juste peut-être pour nuancer. La question, elle porte aussi sur... Vous avez parlé tout à l'heure des CSP, en fait, et du recrutement des journalistes. Ça, c'est un élément, en effet, extrêmement important. Vous n'avez pas parlé de la CSP des journalistes eux-mêmes, vous avez parlé de la CSP de leurs parents. Et aujourd'hui, on entend parler souvent de paupérisation en fait des journalistes. Est-ce que vous pensez que ça joue un rôle important et que ça peut aussi jouer peut-être dans un sens un peu différent, c'est-à-dire peut-être un peu moins relais des pouvoirs économiques, mais critique systématique des pouvoirs économiques. Voilà.
Merci bien. On prend une autre question ou conviction. Si vous pouvez lever la main. Oui. Voilà, parlez bien dans le micro.
Merci. Pourquoi les journalistes font que de l'information événementielle et justement pourquoi ils ne nous donnent pas de la connaissance?
Très bien, merci. Il y a une question devant. Ah. Puis on en prendra une quatrième et dernière.
Oui, moi j'avais une question par rapport à la guerre en Irak. C'était un exemple pour moi qui montrait quand même que c'était le défaut que vous présentiez tout à l'heure, que les médias peuvent... Déjà, il y avait des secrets, il y avait des mensonges par rapport du côté américain, par rapport aux motivations. Ça n'a pas bougé les foules. On n'a pas vu des foules qui ont changé le gouvernement parce qu'on leur avait menti. Et justement, j'avais envie de dire que est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement pour faire bouger les foules, est-ce que ce n'est pas tellement de révéler des choses cachées, mais d'un peu de transmettre des opinions. C'est ce qu'un peu vous disiez par la contextualisation de l'information, donner un peu plus des lignes directrices qui vont un peu plus loin que le factuel. Quoi. Voilà.
Merci. Dernière question ici, derrière toi, et puis on reprendra un tour tout à l'heure.
Je voudrais rebondir un peu sur ce que mon voisin de derrière a dit. Moi, j'ai trouvé que dans la première intervention, vous avez une voix extrêmement agréable, mais j'ai trouvé que le contenu de votre exposé était extrêmement désabusé, blasé sur la profession de journaliste. Et je trouve que vous avez quand même réactivé beaucoup de clichés sur le journaliste, à savoir un peu des enfants de Bourges, un peu corrompus par le pouvoir économique. Ouais. Non, c'est pas tout à fait vrai. Et je trouve absolument, je trouve que les journalistes d'aujourd'hui ne sont plus les journalistes d'hier. Et c'est plus forcément que des enfants de Bourges qui sortent tous de la même école. Donc, bon, ça c'est la première chose. Et pour réagir à la deuxième intervention, celle de Monsieur Volton, vous avez parlé effectivement de ces révolutions tunisiennes qui effectivement sont le fruit de 30 ans de maturation, etc. Peut-être qu'effectivement ils n'ont pas les mêmes outils de communication que nous avons, nous riches occidentaux. En attendant ces révolutions, on peut les suivre en direct grâce à Internet. C'est-à-dire que ces Tunisiens, ces Libyens, ces Égyptiens peuvent nous parler grâce à ces outils de communication. Et donc, on peut précisément communiquer et les écouter, et écouter ce qu'ils ont à dire quasiment en direct. Ils peuvent nous parler directement grâce à ces outils de communication. Et donc, on peut vivre ces révolutions.
Sauf si vous êtes arabophone. Mais je vous signale qu'ils parlent quand même en arabe. Hein, ils écrivent en arabe.
Alors, à moins que vous soyez arabophone... Mais ils peuvent parler à Al Jazeera, ils peuvent parler à France 24.
On arrête. Merci, merci, merci. Voilà, Philippe Merlan, votre voix douce va apaiser tout le monde.
Je ne savais pas que c'est sexuel à ce point-là, ici. Alors, vraiment,
ah, bah, si, si, si.
Tout
si.
Change, même avec les gènes, hein. Alors, sex as usual.
Sur les catégories socio-professionnelles, ben, c'est en même temps l'occasion de vous répondre à tous les deux. Alors, du coup, je vous réponds aussi en même temps. Moi, je ne suis pas désabusé du tout. Je regrette si j'ai donné cette impression-là. Je suis encore content d'être journaliste.
Mais, sourire.
Voilà. Mais il y a plein de moments où je me dis, mais les conditions dans lesquelles on fait notre métier sont... Voilà, on ne fait pas bien notre métier. Et ça dépasse très nettement... moi, la plupart des collègues que je connais sont des gens bien. Voilà, je voudrais pas, voilà. Mais je me dis comment ça se fait qu'avec des gens bien, voilà, on produit quand même. Enfin, je vois les effets au bout, qu'effectivement, notamment cet effet de dire, on est de plus en plus assimilé par les citoyens à un des pouvoirs dominants et pas du tout. Voilà. Donc, si j'ai écrit ce bouquin, c'est parce que, alors, je suis pas désabusé, je suis malheureux de ça. Oui, effectivement, il y a un côté à me dire. Merde, enfin voilà, où ça se passe, où est le problème, voilà. Il n'y a pas que des enfants de Bourges, certes, voilà, il n'y a pas que des enfants gâtés. Vous avez raison de dire qu'il y a en même temps une précarisation du métier qui est extrêmement forte, avec d'ailleurs un effet assez étonnant, c'est que Il y a de moins en moins de reportages et d'enquêtes, mais de plus en plus la partie reportage et enquête, ils sont confiés à des pigistes qui travaillent dans des conditions absolument invraisemblables, hein, qui sont les espèces de soutiers de l'info de terrain, voilà, et qui eux sont pas du tout dans la même logique, du coup. Mais il n'empêche que globalement, les reportages et les enquêtes sont en recul. Partout, voilà. Donc je voudrais pas donner ce sentiment-là. L'histoire de la guerre en Irak, ben oui, ça illustre ça, effectivement. On apprend des choses, mais voilà, qu'est-ce que... Alors, je sais plus qui a posé la question de transmettre des opinions. Du coup, c'est l'occasion. Thierry Volton, Dominique Volton m'a fait une petite pique sur le journalisme citoyen. Et le,
non, voilà. j'avais pas entendu.
Oui, oui, d'accord. Non, mais
un citoyen peut faire de temps en temps un boulot de journaliste, mais c'est deux métiers fondamentalement
absolument
différents.
Voilà.
Et c'est moi, démagogique je pense... de croire qu'on peut devenir
absolument
journaliste.
Absolument. Donc, on est complètement d'accord là-dessus. Moi, ce que je pense, c'est qu'un des intérêts, en fait, de l'Internet, c'est que du coup, beaucoup de gens produisent de l'info, mais pas avec, voilà. Et que du coup, ça devrait amener, sinon la profession disparaître, à s'interroger sur nous, qu'est-ce qu'on peut amener en plus. Voilà. Parce qu'il va y avoir sur la toile énormément de choses. Voilà. Et donc, parmi les choses, moi, je pense qu'on peut amener en plus, c'est effectivement de revenir aux fondamentales du journalisme, aux fondamentaux que sont le travail de terrain, d'aller raconter des choses qui se sont passées en reportage, en enquête. C'est d'être assez rigoureux et de donner des explications sur pourquoi on choisit tel fait comme susceptible d'être un événement. Mais pour ça, il faut avoir une vision un peu historique des choses, parce qu'on ne peut pas le choisir de le nez dans l'actualité. Voilà. C'est en fonction de ce qu'on voit sur une longue durée qu'on peut dire, bah oui, là il me semble qu'il y a... Et puis c'est de donner des clés d'explication. Alors, je n'étais pas tout à fait d'accord avec des opinions. Les opinions, enfin j'allais dire, les opinions, il y en a plein sur la toile. Ce n'est pas du tout pareil de l'opinion et de l'analyse. Mais si on retrouve une capacité d'analyse, effectivement, je pense que ça peut être un plus du métier de journaliste. Mais donc, paradoxalement, donc je crois qu'on est assez d'accord, je pense que l'arrivée d'Internet contribue non pas à tout uniformiser, mais à dire aux journalistes, enfin devrait obliger les journalistes à dire, mais qu'est-ce que c'est, nous, notre métier, et comment est-ce qu'on revient à un métier qui est spécifique par rapport à tout ce qu'il y a sur la toile. Je ne sais pas si j'ai répondu en gros à...
J'ai le droit de répondre aux questions qui lui étaient adressées.
Oui, elles sont adressées à vous deux. Toutes les questions sont adressées à vous deux.
Oui, leur niveau de formation, le niveau d'éducation des journalistes, c'est beaucoup plus fort qu'il y a 30 ans, ça c'est sûr. Deux, et ça c'est pour moi une question, ça ne les rend pas plus indépendants d'esprit. Voilà, je n'arrive pas à comprendre. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont devenus maintenant des journalistes et je les trouve qu'ils ont Bac plus 28 et Sciences Po et tout le bazar. Et je trouve que finalement, au bout de 4-5 ans, hélas, les stéréotypes du métier, bon. Et un des enjeux majeurs, c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations qu'à 30 ans, mais c'est exactement les mêmes informations qui sont partout présentes. Elles sont surtraitées pendant 2 jours, 48 heures, 3 jours, et puis elles disparaissent. Bon, il y a un vrai problème de... Si vous voulez, pour l'instant, les journalistes sont, à mon avis, exactement comme des gosses devant une pâtisserie. Il y a tellement de technologies qui leur permettent de produire beaucoup d'informations qu'ils ne savent absolument pas adapter leur métier à ça. Du coup, ils font tous la même chose en même temps. Donc, une chose dont ils ne parlent jamais, là, c'est que la concurrence leur bouffe 80% de leur indépendance. Plus les pressions politiques, plus surtout les pressions économiques. Parce qu'ils ont le code pour décoder les pressions politiques, mais ils n'ont pas le code pour se faire racheter tous les matins. Ils sont achetés, restructurés, revendre. Et donc, par conséquent, ils sont paupérisés mentalement. Et moi, je fais 3 classes de journalistes. L'élite, insupportable. À la foutre à l'usine pendant 8 jours. 15 jours. Allez, 3 mois. Et vous les connaissez comme moi. À force de coucher avec tous les pouvoirs, ils sont... Et lui, il n'appartient pas à l'élite. On ne le voit jamais. Je suis désolé de le dire. Lui, c'est la classe moyenne. La classe moyenne, c'est les gens formidables. Ils font leur boulot, ils sont honnêtes, modestes. Il y a les soutiers, les gamins, qui sont là, et c'est normal, sont prêts à faire n'importe quoi, y compris bosser 20 sur 24, pour qu'on voit leur trompette dans n'importe quel média, pour qu'on dise, putain, il est vachement bien ce petit jeune, on le sort. Donc il faut faire une analyse sociographique élémentaire. L'élite, elle est insupportable, prétentieuse, elle sait tout sur tout, alors qu'elle comprend rien de rien. La classe moyenne est vachement bien, mais on n'entend pas parce que... Hein. Et les petits jeunes prêts à faire n'importe quoi pour montrer leur sur la commode. Et c'est humain. Et donc par conséquent, on est sur un vrai problème de mutation. Et avec la question que la concurrence des expressions est terrible, et du coup moi je dis aux journalistes que je n'arrête pas de défendre dans tous mes écrits depuis au moins 25 ans, vous êtes indispensable, plus indispensable dans un monde saturé d'informations qu'hier. C'est plus compliqué de faire votre boulot aujourd'hui qu'hier, mais la toile est un enfer, parce que pour 10 informations qu'elle produit, elle produit 80% de rumeurs. Et de saloperies. Parce que l'homme n'est pas meilleur sur Internet que sans Internet. Donc si vous êtes bon, vous êtes bon sur Internet. Mais si vous êtes un pervers tordu, pas comme ici, vous êtes pervers tordu sur Internet. Et comme ça donne une capacité d'expression, j'ai le droit de dire. La phrase de notre époque, j'ai quand même le droit de m'exprimer. Et comme je dis toujours, si tout le monde s'exprime, qui écoute? Tout le monde a quelque chose à dire. Donc par conséquent, le métier des journalistes dans cette espèce d'immense marécage qu'est Internet, oui, vous avez des perles. mais vous avez aussi un espèce de... Donc leur job est encore plus important, mais comme ils sont dans une logique, et je ne peux pas leur en vouloir, que plus il y a de liberté d'information, mieux c'est. Ils ne sont pas encore entrés dans l'économie, et pour moi c'est Wikileaks qui fait la frontière, entre non, notre métier va devoir de dire non, et de ne pas croire que c'est formidable quand il y a de plus en plus d'informations. J'ai dû m'engueuler au moins 20 fois avec des journalistes depuis Wikileaks. Pour moi, Wikileaks, c'est le tombeau de la presse. Parce que c'est du vol, parce que c'est n'importe quoi, et parce que les journalistes n'ont rien gagné en disant, ben nous, les 5 journaux du Nord, évidemment, riches, éduqués, dans New York Times, El País, Le Monde, ben, des gens bien, quoi. Hein. Ben, nous avons repris ces informations sur le site, nous avons cadré, encore eux qui ont fait ce boulot de cadrage, comme a dit, tu comprends, les organiser. Mais j'ai attendu, si vous, journalistes, vous n'organisez pas l'info, vous faites à quoi? Et à quoi ça vous sert de... En quoi vous grandissez l'information en reprenant les dépêches d'agence? Dis-moi, je suis d'accord. Jouons la transparence sur vous. Le mercato journalistique, là, qui fait qu'il y a Dupont qui va chez Durand, Martin qui est rembauché à 300 000 euros, vous savez ce que c'est que le mercato, quand même, hein? Les journalistes qui changent d'antenne, un mec qui n'a jamais fait de télévision qui va à la presse écrite, un gars qui n'a jamais fait, mais comme on l'a vu, sa trompette pendant 3 ans sur les grandes affiches. Donc le mercato, il y a une transparence là-dessus, zéro. Les rachats, fusions, concentrations, disparitions de titres, il y a de l'information et de la transparence là-dessus, zéro. En général, c'est un petit communiqué. Le groupe Tartemol a racheté du schmoll. Donc, de la transparence pour les autres, pas pour soi, etc. Donc, pour moi, c'est le tombeau. Oui, c'est fondamental le métier de journaliste. Oui, c'est un métier de censeur, bien sûr. Il faut avoir le courage de dire que dans un monde qui expose l'information, il faut qu'il résiste et qu'il soit capable de dire que ce n'est pas de la faute. Et leur grandeur, parce qu'il a raison, le camarade. Moi, je ne suis pas un fanat des sondages, comme vous le savez, mais quand même, cette enquête qui a lieu depuis, reprise par La Vie ou lancée par La Vie, en tout cas, ou par La Croix, je ne me souviens plus, La Croix. Parenthèse, un hebdo, un quotidien qui monte quand même. Hein. Il monte, La Croix. Donc, preuve qu'on peut faire de la qualité et que ça marche. Quand ils vont avoir une nouvelle maquette, et j'espère en gardant le titre, eh bien, je pense que, voilà. Donc, ça veut dire quoi dans cette enquête? Ça veut dire qu'année après année, la confiance à l'égard des journalistes baisse. Or, le capital de confiance d'un journaliste, c'est la confiance qu'on lui accorde. Si on croit qu'il est de plus en plus people, et qui font tous la même chose au même moment. Regardez la Tunisie, on est vachement emmerdé. Ils ont 8 jours de retard sur notre programme médiatique. On voulait bien que toute la classe médiatique mondiale soit là, mais maintenant la classe médiatique, elle est en Libye. Du coup, tout ce qui se passe en Tunisie, ils emmerdent, ils font des révolutions qui durent trop longtemps. Ouais, ils ont foutu. Et je ne critique pas. Je ne critique pas. La dernière chose, j'ai eu la raison, c'est que, et ça m'obsède, les journalistes, on ne veut pas les payer à faire autre chose que leur job, parce qu'on les paye mal. Donc les pauvres, ils passent leur vie autour, devant la bécane. Mais je dis, c'est pas en faisant le tour de l'ordinateur qu'on fait le tour du monde. Donc si on veut aller voir le monde, il faut y aller, et ça coûte cher. Et du coup, on prend des pigistes à 23 centimes, ou des mecs ont dit, coup de coco, tu m'emmerdes, ton histoire, personne n'en parle, donc tu vas pas m'emmerder avec ça, et puis je vais pas te payer 3 jours à Quimper, pour pas dire à Abu Dhabi, pour aller faire ça. Et le mec, finalement, il regarde ce qui s'est passé à Quimper sur la bécane. Et du coup, on a un métier qui devrait être reporter, au sens latin du terme, rapporter la réalité, qui ne se fait que commenter ce qui se passe. Donc ils ont des révoltes et des batailles à mener. Et d'ailleurs, moi, je veux bien être le premier secrétaire de leur combat pour justement dire on doit payer cher des professeurs et des journalistes.
Merci. Alors, on va essayer de reprendre quelques questions.
Mais je n'ai pas répondu à celle qu'on m'avait adressée, mais je vais y répondre tout
voilà,
après.
Ça suffit. Voilà, je crois qu'il y avait 2 questions en haut et puis il y avait une question en bas. Alors, voilà, tout au fond, celle qui est la main qui est levée.
Je voudrais avoir vos avis respectifs sur plusieurs points. Là. La guerre d'Irak, le fait que les journalistes soient entre guillemets « embedded », d'ailleurs sur le plan...
Pas tous, hein.
Oui, mais sur le plan symbolique, qu'est-ce que vous en pensez? Ce terme est quand même un peu bizarre. Pour Hervé Guéquière et Taponnier, qu'est-ce que vous pensez? Ils sont allés trop loin ou ils auraient dû s'arrêter, pas aller au-delà de ce qu'ils étaient censés rapporter? Et sinon, je suis un peu étonnée de votre analyse en Tunisie, c'est bien parce qu'il y a un homme qui s'est brûlé, immolé, que après ça a flambé. Depuis 1996, il y avait Al Jazeera et Twitter et Internet,
non,
ça fait des années.
Il n'y avait pas 40 millions de
télévisions. Non, mais ça existait. Donc c'est juste à partir du moment que quelqu'un se brûle.
Voilà, merci.
Et si ça brûle,
merci,
parce qu'il y a brûlé, voilà.
Alors,
ce que je veux dire.
On descend le micro. Jean-David. Voilà, il arrive jusqu'à toi. Question brève.
Il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, je ne sais pas, les médias ne fonctionnaient pas comme des sociétés privées comme aujourd'hui. En tout cas, les principaux, ceux qui avaient une audience nationale. Donc les choses ont bien changé depuis, ça a été dit tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait imaginer la structure des médias nationaux de demain qui leur donne une forme d'indépendance qui soit peut-être améliorée par rapport à la situation actuelle, notamment par rapport à la question de la publicité, etc.
Merci. Et puis il y a une question devant Jean-Philippe. Voilà. Vous pouvez lever la main peut-être pour... Voilà. Très bien. Merci.
Oui, c'est à propos de la première intervention. Je voudrais savoir comment a été établie la recherche qui aboutit au fait que l'on a classé la France au 44e rang, alors qu'elle était au 11e rang du point de vue de la qualité journalistique de ces journaux et de ces moyens d'information. Donc, c'est une question que je pose au premier intervenant. Je trouve ça assez surprenant, plus que surprenant. Enfin bon. Quels sont les moyens, les méthodes pour aboutir à ce genre de conclusions définitives qui sont très fréquentes
finalement. Merci bien. Alors, je ne sais pas qui sur ces questions, guerre d'Irak, Afghanistan, indépendance.
Voilà. Alors, guerre d'Irak, les journalistes embarqués, c'est les Américains et les Britanniques. Hein. Je vous rappelle qu'il y a des pays européens qui n'ont pas voulu y aller, dont les Italiens et les Espagnols. Et ceux qui ont fait le plus de bruit pour pas y aller sont les Français. Donc, par rapport à la première guerre du Golfe, il y a un progrès énorme. Il y a deux progrès. Un, je vous rappelle la première guerre du Golfe, il y avait la coalition occidentale, puisqu'il y avait la légalisation de la guerre. Et du point de vue des médias, c'était les Américains qui contrôlaient tout, et tout le monde était embarqué avec eux. Dans la deuxième guerre, il y a des gens qui résistent en Europe, dont les Français, on a suffisamment râlé. Et surtout, il y a un progrès gigantesque, c'est qu'il y a les chaînes d'information arabes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que CNN, BBC World et Deutsche Welle, et vaguement TV5, qui avait déjà pas grand-chose comme moyen à l'époque. Il y a Al Jazeera, Al Manera, et donc du coup, Al Arabiya, parce qu'Al Manera n'avait pas été créé encore. Donc vous avez, et c'est ça la grande victoire de la guerre d'Irak parmi les effroyantes détresses qu'elle représente, c'est que pour la première fois, les opinions publiques arabes avaient leurs médias à eux. Et Al Jazeera, contrairement à ce qu'on a dit un peu facilement chez nous, c'était pas de la propagande arabe, c'est plus compliqué que ça. Donc si vous voulez, la deuxième guerre d'Irak est un exemple, au contraire, pour moi, optimiste dans le début du bordel que va devenir la mondialisation de l'information, c'est quand il y aura des informations chinoises, indiennes, brésiliennes, etc., etc., qui vont cohabiter dans le monde, sur des chaînes d'information 24-24, là, on va s'apercevoir qu'on n'a pas la même vision du monde. Comprenez? Parce que les faits ne seront pas vus de la même manière. Et là, on va retomber sur la mondialisation de l'information, sur la question politique. Qu'est-ce que c'est que le minimum de SMIC, de valeur qu'il faut avoir pour qu'un journaliste de n'importe quelle chaîne d'information appelle ça un fait? Et bien ça. Ou on passera du fait à l'information, de l'information à l'interprétation, de l'interprétation au commentaire. Donc on va avoir un sacré boulot. Et là, on risque, hélas, de pouvoir avoir une tragédie. C'est que la mondialisation de l'information, qui pour moi est quand même un progrès, parce que ça, ça a été un accélérateur depuis 30 ans, avec la radio, la télévision, n'oublions jamais les déplacements physiques, le niveau d'éducation qui a augmenté, le tourisme, les Tunisiens sont un peu moins de 12 millions, ils ont 6 millions de touristes par an, je dis ça parce que c'est le pays le plus labouré, enfin, le tourisme de masse à 332 euros avec l'hôtel 4 étoiles pendant 3 semaines, là. Hein, c'est à peu près ça qu'on paye, à peu près. À peu près. Donc, pour résister à ça, il faut une intelligence gigantesque. Le génie des Tunisiens, labouré par le tourisme de masse depuis 30 ans, c'est quand même incroyable. Donc, si vous voulez, il y a cette mondialisation de l'information, mais le jour où elle va se généraliser, elle risque de ne pas se rapprocher les points de vue. Et regardez comment la presse occidentale n'est pas très généreuse sur Al Jazeera. Sur les événements qu'on vit tous depuis 3 semaines, il n'y a aucun média qui dit, bah tiens, on va faire une analyse de ce qu'a fait Al Jazeera depuis 15 jours. Bon, on les accepte parce qu'ils sont là, mais on serait pas loin de penser qu'ils sont pas honnêtes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le racisme, il est partout. Et je réponds à la question de monsieur tout à l'heure, si vous aviez raison. Vous dites, aujourd'hui, on connaît mieux l'autre qu'il y a 50 ans. Vous avez raison. Mais ça ne nous a pas rendu une seconde plus tolérants. Pas une seconde. Et je prends la truc qui m'intéresse, la figure de l'immigré. On est chez des chrétiens, théoriquement, je pense, ici. L'immigré, pour moi, c'est la figure de l'universel de l'homme. C'est-à-dire celui qui est haï et détesté et tué et bastonné partout dans l'humanité. Et depuis le début de l'humanité. Et depuis le début de l'humanité, vous avez des pauvres qui se déplacent pour aller bosser, pour faire le boulot que les riches ne veulent pas le faire. Et en plus, les riches les traitent de salauds et veulent les renvoyer. Et bien l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait depuis 15 ans? Elle a fermé ses frontières. Elle dit, je ne veux pas vous voir. Sortez, revenez. Vous vous souvenez ce qui s'est passé par les villes espagnoles, par les deux villes au nord, à côté de Tanger, là, des Espagnols. Vous vous souvenez, les mecs ont crevé. Moi, j'étais à Tanger la semaine dernière, c'est 13 kilomètres, c'est pas 130 kilomètres. C'est 13 kilomètres. Est-ce que l'Europe perd des droits de l'homme, patrie, gna. Elle est bonne sur l'immigration? C'est le racisme le plus vite possible et imaginable. Donc, hélas, vous avez tort. C'est pas parce qu'on connaît mieux l'autre qu'on est plus tolérant à l'égard de l'autre. Mais si, c'est l'autre sujet. Madame, je vais vous répondre pourquoi sujet. Quand on donne des informations sur l'autre, ce qui est le cas de la mondialisation, on se supposait que puisqu'on connaît l'autre, on est moins haineux, puisque la base du racisme, en principe, c'est qu'on déteste l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Eh bien, ce que je démontre, hélas, pas moi, mais la réalité historique, c'est qu'on connaît mieux l'autre et on est tout autant raciste. Hélas. Mais bien sûr, pire. Mais bien sûr. Bon, hélas.
Alors,
mais attendez, mais regardez le statut. Mais regardez le statut. Attendez. Mais du calme, du calme.
Non, mais c'est vrai.
Mais attendez, vous avez, tout le monde a le droit d'avoir l'opinion qu'il veut, ça ne me dérange pas. Si vous prenez... Attendez, non mais madame, je vais essayer de répondre sérieusement. Vous prenez le statut de l'immigré en Europe, d'accord? On a 10 fois plus de moyens de connaissances culturelles, 10 fois plus de déplacements qu'il y a 50 ans. Les gens ont circulé. Eh bien regardez, si vous trouvez qu'il y a de la part de l'Europe, patrie des droits de l'homme et de la démocratie, une plus grande tolérance à l'égard des immigrés qu'il y a 50 ans, alors on ne vit pas sur la même planète. Et je prends l'Europe, hein? Je ne vous dis pas l'Asie, hein?
Je donne la parole à Philippe. Voilà, Philippe.
Hélas.
Quelques choses, je suis d'accord, et en particulier sur la façon dont on regarde Al Jazeera et l'espèce de regard hautain et supérieur que. Ouais, je pense pas. Non, moi je crois pas. Je crois que. Enfin, voilà. Sur les quelques questions qui ont été posées sur le journaliste embedded, comme on dit.
Embarqué.
Voilà.
Il y a un mot français, embarqué.
Oui, embarqué, oui, absolument. Embarqué. Alors, moi je pense effectivement que c'est très dangereux, ce genre de pratique. Je pense que sans être du journalisme embarqué, il y a plein de choses où, en fait, c'est par la quête du scoop notamment, c'est les politiques qui donnent leur agenda aux médias. Je prends un exemple, quand Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, organise une descente dans la cité des Tarterets à Corbeil-Essonne et qui prévient la veille d'un certain nombre de rédactions en disant « Est-ce que vous acceptez de venir avec nous au petit matin ?» Ben, pratiquement tout le monde va accepter en disant « Si les collègues sont sur place, eh ben, nous, on aura l'air des... » Voilà. Et donc il y a eu... Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 80, en fait, les politiques avaient très peur de perdre leur pouvoir au profit des médias. Il y avait une espèce de doute, voilà. Et progressivement, il y a eu notamment une capacité à reprendre la main sur l'agenda. Enfin, ça demanderait des développements, mais c'est vrai que cette question de « c'est nous qui donnons l'agenda » et en fait, les médias s'y adaptent, est un moyen de domination assez efficace. Alors, après ça, il ne faut pas rêver le journalisme embarqué. Hein. Moi, je ne suis pas non plus dans le mythe de « on part dans un pays en toute indépendance, sans aucun contact, et c'est comme ça qu'on aura la meilleure vision des choses ». Moi, ça m'est arrivé, j'allais dire, d'aller dans des pays et de prendre contact avec, ça va vous parler, les partenaires du CCFD dans tel ou tel pays, donc une ONG qui fait du travail de terrain, etc. Parce que je considère que ce n'est pas sérieux, j'allais dire, en 8 jours, de dire, plus je serai autonome, indépendant, sans lien, sans contact avec qui que ce soit, plus j'aurai une vision objective, et voilà. Donc, de temps en temps, il faut s'adresser à des interlocuteurs, il faut savoir en même temps qu'ils ont, eux, leurs propres soucis de faire passer tel ou tel message, mais il ne faut pas rêver non plus à une situation du lonesome cowboy qui va dire la vérité sur le...
Voilà. Et puis il faut dire au petit point optimiste, c'est que l'expérience ça sert, c'est-à-dire qu'entre la première et la deuxième guerre du Golfe, le comportement des journalistes dans le monde, ils n'oublient pas, il ne faut pas exagérer. Donc il y a une culture journalistique qui augmente, qui consiste à dire qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas se faire trop manipuler, voilà, quand même.
Le classement sur la liberté de la presse de Reporters sans frontières, je ne connais pas les critères très précis. En fait, c'est une accumulation d'incidents qui permet de classer... Parmi les incidents, il y a des interpellations de journalistes, les mises en examen, les pressions sur tel ou tel journal, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu, dans les dernières années, des faits qui se sont accumulés, qui ont contribué à ce que le classement de la France se détériore là-dessus. Sur les formes d'indépendance économique, c'est compliqué. C'est vrai que le fait qu'on soit maintenant propriété de grands groupes industriels et financiers, notamment des marchands d'armes qui ont une part particulièrement importante. Alors, là encore, il faut se méfier d'un raisonnement simpliste, c'est-à-dire, encore une fois, les pressions directes ne sont pas si importantes que ça, j'allais dire, mais l'idéologie qui se diffuse à travers ça, d'une information marchandisée, est extrêmement importante. La recherche de la rentabilité, moi j'appartiens à La Vie, on est dans le groupe Le Monde, j'allais dire avec les nouveaux actionnaires, ça y est, ils ont donné leurs objectifs de rentabilité pour l'année qui vient, de façon assez, sans j'allais dire, mettre en premier la question de la qualité de l'information, c'est clair, on vous demande de dégager tant l'année prochaine, point barre. Voilà. Donc ça,
c'est la même chose pour l'édition, c'est la même chose sur, hélas, beaucoup d'industries culturelles, hein. Ça c'est une tragédie. Ça. Le capitalisme financier gagne dans la presse et la communication et la culture, là où il vient d'exploser en 2008 sur la finance. Voilà. Et on est un secteur, je dis on parce que c'est la même chose pour les connaissances, culture, communication, presse, c'est un secteur dans lequel le capitalisme financier le plus brutal a encore ses lettres de noblesse, alors que quand même, depuis 3 ans pour le reste, Je ne dis pas que l'arrogance des banquiers a diminué, mais ils font un tout petit peu attention à être totalement arrogants. Là, par contre, ce qu'il a dit, c'est très juste, c'est que les repreneurs du monde qui sont intéressés par la vérité, comme moi je suis intéressé par le Saint-Esprit, ils ont dit, on veut tendre, voilà. Mais c'est vrai.
Voilà, on va s'arrêter sur le Saint-Esprit, qui peut-être va nous rassembler. On a dépassé très largement l'horaire, mais ça valait la peine d'être dans le débat. On voit bien qu'on est sur des sujets sensibles qui nous touchent beaucoup. On n'a sans doute pas les mêmes analyses, mais c'est... On l'a bien compris, Véronique, mais je crois que ça va nous aider quand même à réfléchir aussi un peu ce débat. Merci. Merci. Je rappelle les ouvrages de nos invités. Philippe Merlan, Média, la faillite d'un contre-pouvoir aux éditions Fayard. Dominique Volton, informé n'est pas communiqué aux éditions du CNRS. Vous aurez à la sortie la revue Projet qui vous proposera son dernier numéro sur l'indépendance des médias. Et puis, je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous au mardi 5 avril prochain pour la prochaine soirée d'éthique publique où, si tout va bien, si nos invités sont là, nous nous poserons la question « Que fait la France en Afghanistan ? Doit-elle rester ? » Une autre rencontre à ne pas manquer. Bonne soirée à tous.